Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1. 16h-18h. L'équipe est sauvage.
Et le week-end, nous vous faisons revivre cette compilation des moments les plus sympas de la semaine. L'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël. Vous savez que c'est deux heures de bonne humeur pour nous et de compétition pour les journalistes d'Europe 1, dont l'objectif, je le rappelle, est de remporter le titre de chroniqueur du jour grâce à leur meilleur sujet. À ses côtés, Mathieu Noël, bien sûr, il sera avec Eva Rock, mais aussi une personnalité médiatique. Et côté programme, eh bien, nous parlerons du couple princier Meghan et Harry, qui se met en retrait de la vie politique. Au programme également, l'Atlas mondial des vers de terre. Ces héros méconnus de nos écosystèmes sont en danger. Il y aura aussi l'actu de Stéphane Guillon. Mais on va tout de suite commencer par Mathieu Charrier. C'était à l'occasion d'Halloween, en présence de l'un des maîtres du thriller, Maxime Chattam.
Dans le showbiz, il y a deux stars réputées pour leur intransigeance. Ils ont d'ailleurs les mêmes initiales, Maria Carré et Mathieu Charrier. Le vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1, qui la dernière fois, pour épargner l'humiliation à un collègue qui s'était trompé à l'antenne, a choisi de ne pas piper mot. En revanche, hors antenne, fonction dictaphone de nos mobiles enclenchés, il se montrait beaucoup plus loquace.
Si j'avais été de mauvaise humeur, j'aurais porté réclamation.
Là, après, je me dis, bon, vas-y. Mais voilà, sachez que je ne laisserai pas non plus passer 3-4 fois ce genre de sottise.
Sinon, il se passe quoi?
Je démissionne.
Monsieur Charrier, on l'a vu. Vous êtes naturellement horrible, mais vous étiez donc le journaliste idéal pour évoquer ces tournages de films d'horreur où l'horreur est devenue réelle.
Ouais, c'est ça. Je voulais revenir sur certaines conditions de tournage où le résultat à l'écran est presque moins pire, comme dirait l'autre, que ce que les acteurs ont dû faire sur le plateau. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez d'Entretien avec un vampire, porté notamment
film culte,
Tom Cruise, Brad Pitt. Un vampire, vous savez, ça doit avoir la peau très blanche et puis on doit voir un peu les veines qui ressortent. Et ben, le réalisateur, Knight Jordan, plutôt que de faire du maquillage, il s'est dit bouge pas, je vais obliger les acteurs à suspendre pendant quelques secondes par les pieds avant chaque scène.
Non.
Si, c'est vrai. Comme ça, vous savez, on va avoir un afflux de sang, un afflux sanguin, et hop, on va voir leurs veines. C'est ce qu'il a fait pendant tout le tournage. À chaque fois, ils disaient allez les gars, hop, c'est parti.
Mais ils étaient Brad Pitt et Tom Cruise.
À l'époque, ils étaient moins connus.
Ils étaient un peu moins connus parce qu'aujourd'hui, je pense
qu'ils enverraient leur doublure. Le publiciste dirait hop, hop, hop.
Oui, oui.
Ensuite, dans Halloween, justement, puisqu'on est de John Carpenter, puisqu'on est dans une spéciale Halloween, vous vous rappelez peut-être que John Michael Myers, qui a assassiné sa petite fille, se retrouvait dans un asile psychiatrique un peu étrange. Eh bien, ces scènes, elles avaient été tournées dans un vrai hôpital psychiatrique, un ancien hôpital psychiatrique abandonné à Prague, qui était tellement flippant que les acteurs eux-mêmes étaient complètement effrayés dans le lieu. Et le réalisateur devait leur diffuser des espèces de musique joyeuse pour essayer de rassurer tout le monde parce que tout le monde était complètement prostré. C'était vraiment le monde à l'envers.
On parle aussi cette semaine, Mathieu, de la sortie de Dr. Sleep, la suite de Shining. Là aussi, le tournage du film de Stanley Kubrick avait été éprouvant.
Ah, bah oui, l'actrice Shelley Duvall qui joue Wendy Torrance, la femme de Jack Nicholson, elle a tellement été effrayée par ce tournage qu'elle faisait des crises d'hystérie sur le tournage. La production avait mis en place toute une organisation pour que des bouteilles d'eau soient à sa disposition à n'importe quel moment afin qu'il y ait des petits assistants qui puissent immédiatement lui donner à boire pour pas qu'elle se déshydrate et qu'elle parte dans des crises incontrôlables. On comprend pourquoi elle a cette tête à l'écran, vous savez, à la fin, elle est complètement effrayante rien qu'à voir sa tête.
Elle était naturellement sans maquillage. Dites-moi, mais il y a une question sur Shining, ça a vraiment été tourné dans cet hôtel glauquissime là?
Alors, oui, bien sûr.
C'est pas une scène de studio, il y a pas une combinaison
de... Non, c'est formidable.
C'est
d'ailleurs, dans la suite, on retourne dans l'hôtel. Alors, il faut rien que
pour ça,
il faut y aller.
Il y a une autre anecdote que vous aimez bien, Mathieu.
Vous savez, le film Candyman, à un moment, l'acteur Tony Todd, il a des espèces d'abeilles qui sortent de sa bouche, des dizaines d'abeilles qui sortent de sa bouche. Ils se sont dit plutôt que d'aller prendre des fausses abeilles ou de faire des effets spéciaux à l'époque. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre des vrais. Alors, ils avaient fabriqué un espèce de dentier pour lui protéger la gorge et la cavité intérieure.
Et ça vous fait rire.
C'est que j'imagine, aujourd'hui, vous demandez ça à n'importe quel acteur américain, c'est inenvisageable.
Même sur Plus belle la vie, vous demandez ça à un acteur, il ne le fait pas.
Mais là, donc, il prenait les abeilles avant la scène avec son espèce de dentier, là, et puis au moment où ça tournait, il ouvrait la bouche, et hop, il y a toutes les abeilles qui partent. Moi, je ne l'aurais pas fait personnellement, j'aurais quitté le tournage.
Maxime Chattam, vous l'auriez fait?
Non, mais vous m'excitez.
Il me regarde avec ses petits yeux.
Et vous avez bien une anecdote sur le tournage de L'Exorciste aussi.
Célèbre scène de salle de bain, les acteurs, vous savez, ils avaient une espèce de buée qui sortait de la bouche. Bah là aussi, plutôt que de s'en kikiner à faire de la fausse buée, à l'époque, William Friedkin, il s'était dit bougez pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les enfermer dans un espèce de frigo géant. Ils vont avoir tellement froid,
c'est pas possible.
Sans que les acteurs au début soient au courant, ils les ont mis dans un espèce de frigo, top, température à 0 degré. Alors là, je peux vous dire qu'il y avait de la buée qui sortait de leur bouche. Et puis aussi, à certains moments, ils tiraient avec un fusil à pompe. En vrai, hein. En l'air, il faisait tirer un assistant pour qu'il soit surpris, vous savez, qu'il y ait une vraie réaction naturelle, quoi, pour pas que ce soit fin. Une dernière anecdote pour la route, on en parlait hors antenne avec Maxime Chattam dans Poltergeist, vous savez, dans la piscine, cette célèbre scène, il pleut, l'actrice est entourée de cadavres, ben là aussi, vous me voyez venir, Mais en fait, ça coûtait trop cher d'aller chercher des vrais squelettes, des faux squelettes en plastique, etc. Donc la production s'est dit, bougez pas, on va prendre des vrais squelettes, ça va coûter pas grand chose. Ils ont fait ça, ils l'ont pas dit à l'actrice, elle l'a découvert à la fin du tournage. Et d'ailleurs, après ce tournage, il y a beaucoup d'acteurs qui sont morts. Il y a Dominique Dunne qui incarnait la sœur aînée qui a été assassinée.
Une malédiction.
Il y a deux autres acteurs qui sont morts, dont une petite fille de 12 ans, elle a fait une crise cardiaque. Certains pensent que c'est peut-être l'esprit de ces cadavres et de ces squelettes qui sont venus hanter le film et les
Allez,
acteurs.
Un nouveau roman pour Maxime Chattel en perspective.
Pardon, mais ils sont allés les chercher où, les squelettes en question,
savez,
à la morgue ou...
Oui, sans doute.
Mais c'est horrible.
À la morgue. Merci Mathieu Cherrier, mais vous connaissez ma perversité légendaire, excitée encore plus par le fait qu'on soit Halloween. Voici la question vache de l'autre candidat. Amanda, vous êtes toujours avec nous ?
Bah oui, je suis toujours en direct de mon manoir. Il y a des enfants qui ont sonné chez moi pour avoir des friandises. Je suis sorti en nuisette. Ils auraient peur de leur vie, je peux vous le dire. Alors Mathieu Cherrier,
oui,
j'ai vu votre photo sur le compte Twitter. J'avoue que je ne dormirai pas dans la baignoire. Bref, j'ai une question cinéma d'horreur pour vous, puisque vous parlez de cinéma d'horreur. Voici trois films. Donnez-moi le faux. Poultrygeist, un film avec des poulets zombies. Piranaconda, un film avec un anaconda piranha. Et Toilettor, un film avec des WC serial killer. Lequel est le faux, Mathieu Charrière?
Oh. Toilettor, c'est pas possible.
Bravo, Mathieu Charrière. Vous avez gagné un massage à l'huile de vidange.
Oui, calmez-vous, Amanda. Calmez-vous, Amanda, on vous retrouve tout à l'heure.
Avec plaisir.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h, 18h.
Et oui, vous écoutez Mathieu Noël. À ses côtés, il y a Eva Rock. Il y a aussi un invité, en l'occurrence, le réalisateur des Bronzés, Patrice Lecomte. Découvrons à présent le sujet de notre expert en littérature, Nicolas Caro.
Nicolas, cet après-midi, vous nous parlez de ces romans qui ont été adaptés au cinéma. Pas toujours avec bonheur.
Ben oui, puisqu'on reçoit Patrice Lecomte et il se trouve que la littérature, c'est un réservoir gigantesque pour le cinéma. Ce sont des scénarios clés en main. Finalement, il suffit de les adapter ensuite pour faire tenir des centaines de pages en 2 heures. C'est facile. Un film sur 5 est une adaptation. Et encore, je ne parle pas des comic books, qui sont aussi des livres. Après tout, les Marvel, etc. Ce sont aussi des adaptations. C'est un peu une sécurité, on peut se dire, l'adaptation.
Ça rassure parce que, les producteurs.
Ben, on se dit que les spectateurs iront peut-être plus volontiers voir quelque chose qu'ils connaissent déjà ou qu'ils auront envie de voir le film plutôt que de lire le livre, ça va plus vite. À mon avis, d'ailleurs, une bonne adaptation, enfin, transcrire un roman en film, c'est impossible. Ça sert à rien d'essayer de le faire. Et surtout, ça ne sert à rien de voir le film pour se faire une idée du livre. Puisque un livre, on passe beaucoup plus de temps avec. C'est pas du tout la même démarche. On est dans l'esprit des personnages. Ça veut pas dire que le film sera mauvais. Mais c'est autre chose. Petit blind test. Donc, ce sont des films adaptés de romans. C'est parti. Facile.
Ah, c'est horrible.
Eva, vous sembliez l'avoir trouvé.
Oui, mais
aucune idée.
Non, c'est La Firme de John Grisham, adaptée par Sidney Pollack avec Tom Cruise dans le rôle.
Mais ça, c'était magnifique.
Bien sûr, j'ai pas vu le film, j'ai pas lu le bouquin. Il n'y a pas de danger.
C'est un tort, parce que en l'occurrence,
oui, je crois que c'est
deux,
pas mal, ça, hein.
Les deux sont très bons.
Ah, mais j'ai des lacunes.
Donc, c'est Mitch McDear, qui est un jeune avocat ambitieux, embauché par un cabinet prestigieux, mais qui va s'avérer être un piège. Alors, c'est un grand film et un grand roman. Le seul problème, c'est que vous commenciez par le livre ou par le film, vous tuez la fin, puisque Grisham, c'est le maître du twist final. C'est dommage, dans un cas comme dans l'autre, de commencer par l'un. Enfin, il faut choisir. Mais bon, de toute façon, je vous le dis, les deux sont très bons. C'est une des exceptions. Deuxième extrait.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici dans votre plein
Dracula.
Et laissez
Dracula.
De Coppola avec Keanu Reeves et Gary Oldman. Des films de vampires, il y en a des dizaines. D'ailleurs, il y a une rétrospective en ce moment sur le thème à la Cinémathèque. Mais s'il ne fallait en voir qu'un, c'est celui-là, à mon avis. Il est incroyablement fidèle au roman de Bram Stoker. Et on peut lire et voir le film encore et encore. C'est toujours le même plaisir. Troisième extrait, pas facile non plus.
C'est pas au milieu coule une rivière
non.
Ou...
Autant n'importe le genre.
Non.
C'est plus récent.
L'homme au masque de fer de Randall Wallace.
Oh, ce n'est pas une réussite, ça.
Ah si.
Ah,
en
si.
Fait,
quoi, le film, L'homme au masque de fer avec Leonardo DiCaprio.
Absolument. C'est une adaptation du Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas. C'est la suite des Trois Mousquetaires. Moi, j'adore Dumas et les Mousquetaires. J'ai vu la plupart des tentatives d'adaptation. Il y en a eu vraiment des dizaines. Et je peux le dire, c'est infaisable. Ça ne tient jamais.
Mais Caprio en Louis XIV, c'est infaisable aussi. Hein.
Soit too much. La dernière tentative américaine, les Mousquetaires pratiquaient le kung-fu. Je dis non. Mais là, ce qui est malin, c'est que drôle. Randall Wallace se focalise sur un épisode très court dans ce roman de 5000 pages. Ça doit faire un chapitre, en fait, l'histoire de l'homme au masque de fer. Et ça tient. Puis bon, les acteurs, quand même, vous dites DiCaprio,
John Malkovich,
Jeremy Irons, John Malkovich.
Ouais. Gérard Depardieu.
Depardieu en Portos. Ça colle quand même, Depardieu en Portos.
Oui, c'est vrai que pour Portos, on pense forcément à Depardieu. C'était bien, bien casté.
Quatrième film.
Drive,
c'est la musique de Kavinsky.
Ça, c'est une adaptation.
Ah, c'est une adaptation.
Mais comment ça, c'est un film complètement d'ambiance et il n'y a pas d'histoire?
En fait, c'est un roman de l'écrivain James Salis, un roman très court, foutraque, mal fichu. Effectivement, il n'y a aucune ambiance dans le livre, dans le roman, ni d'histoire. C'est complètement alambiqué. Et pour une fois, le film dépasse lui largement le livre. Peut-être par cette raison, parce que Nicolas Winding Refn, le réalisateur, mise tout sur cette ambiance. Et c'est ça.
Mais est-ce que l'auteur, il touche quand même des droits?
Ah bah bien sûr.
Oh, c'est bon ça. Et écrit un livre pourri.
James Salis, qui est un grand écrivain de polar par ailleurs, mais celui-ci a raté à mon avis Drive. Mais le film est génial.
Patrice Lecomte, vous avez déjà fait une adaptation?
Oui.
Le Magasin des Suicides, notamment.
Le Magasin des Suicides,
effectivement. Le Magasin des Suicides qui était adapté de Jean Tellet. J'avais adapté un roman de Zweig. J'ai adapté un roman de Modiano. J'ai adapté Simenon. Et il y a d'autres projets de ce genre qui se profilent.
Et c'est une complexité différente? C'est un défi différent d'adapter?
J'adore parce qu'il s'agit surtout... Si on est juste... ne lançons pas ce débat parce que j'en ai pour des heures. Ce que je veux dire, c'est que si on a le livre dans la main gauche et la caméra dans la main droite, on est juste illustrateur. Or, ce qui est intéressant, c'est d'adapter, donc d'adopter, de traduire sans trahir, de faire autant un film qui soit l'univers de l'écrivain qu'un film qui soit personnel. De toute façon, si on adapte, c'est parce qu'on entre en écho émotionnel ou sentimental avec un bouquin.
Et il paraît que vous allez adapter Maigret.
Oui.
C'est en cours?
Ouais.
C'est en tournage ou c'est en...
Ah non, en tournage, je serais pas là.
C'est qui l'acteur?
J'ai laissé ma deuxième équipe tourner pour faire l'émission de Mathieu Noël. C'est très chic.
C'est qui l'acteur?
Et l'acteur, c'est Portos.
Eh oui,
Gérard Depardieu. Eh ben, il tourne pas avec n'importe qui. Hein.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Nous sommes avec Mathieu Noël et sa bande. On va découvrir maintenant le sujet d'Anne Le Gall, notre spécialiste en environnement et qui, avec son sujet, va tenter de captiver le directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Onodibio, invité cette semaine à venir nous parler de son livre La Minute Antique aux éditions de l'Observatoire.
Anne, jadis timorée, qui, comme on dit en tennis, hésitait à monter au filet, c'est fini ça, c'est fini désormais. Elle sait que pour s'imposer dans l'équipée sauvage, il ne suffit pas d'être bon, il faut encore que l'autre soit mauvais. Quand c'est le cas, il convient donc de le souligner au Stabilo Rose Fluo.
Non, je ne l'ai pas vu, mais on en a pas mal beaucoup parlé.
On en a pas mal beaucoup parlé.
Redoutable, Anne Le Gall, vous avez changé, Anne.
C'est vrai?
Oui, à mon contact, vous devenez détestable. Vous nous parlez aujourd'hui du succès des vers de terre français. Sinon, vous voyez toujours votre psy, ça se passe bien.
Non, mais je vous sens moqueur, mais c'est un événement, figurez-vous, cet atlas mondial des vers de terre. Regardez, ça fait la une du magazine américain Science, ceux qui nous suivent sur Europe1.fr. Donc, on voit en une donc un amas de lombrics marrons et luisants avec ce titre « Worms of the World », « Vers de terre du monde ». Parce que oui, on sait à peu près où se trouvent dans le monde les oiseaux, les mammifères, les poissons. On sait à peu près dans quelles zones ils sont menacés, mais on ne savait rien sur les communautés de vers de terre. Du coup, il y a 3 ans, une équipe de chercheurs de l'université de Leipzig en Allemagne s'est mise en tête d'établir une carte de ces populations de lombrics qui vivent 50 cm sous nos pieds. Ces chercheurs allemands ont donc demandé aux 140 meilleurs experts mondiaux du lombric de leur envoyer. Donc, experts mondiaux
c'est
du lombric.
Sur la carte de visite, ils ont experts du lombric.
Ouais, alors géodrilologue pour être
géodrilologue.
Précis. Ouais, il y a des experts du lombric, voilà. Et ils ont donc été invités à faire des prélèvements pour compter les vers autour de chez eux. Ils ont compilé tout ça et ça donne donc en 3 ans de travail une cartographie mondiale de la présence de ces invertébrés dans nos sols. On apprend donc qu'il y a 6000 espèces différentes de vers de terre dans 57 pays du monde, qui sont loin d'être également répartis sur la planète. Le paradis des vers de terre, effectivement, c'est donc chez nous, en France.
Et pourquoi donc ?
Eh oui, au Royaume-Uni, en Italie, en Nouvelle-Zélande et dans la Pampa argentine. Pourquoi ? Ce sont des zones tempérées où il ne fait pas trop chaud. On peut trouver dans ces zones jusqu'à 150 vers de terre par mètre carré.
Surtout près des cimetières.
Oh non.
C'est ça ? Non, mais je crois.
Je ne sais pas si c'est le son des lombrics.
Plus intéressant pour eux.
Dans une prairie, la biomasse des vers de terre, ça équivaut au poids de 2 à 6 vaches. C'est vous dire combien ils sont nombreux. En fait, il y a aussi en poids 20 fois plus de poids de vers de terre dans le monde que de poids d'humains.
Mais non.
Et si.
Mais là, franchement, à quoi ça sert d'avoir une carte de la présence des vers de terre dans le monde, Anne Le Gall?
Eh bien voilà, justement, ça sert à les protéger parce que ces chercheurs ont découvert...
Ils sont en danger.
Déjà que les lombriques... Oui, ils sont en danger. Déjà, il y en a beaucoup moins qu'on pensait dans les zones tropicales parce que le réchauffement climatique et la montée des températures est une réelle menace pour eux et on la sous-estimait, cette menace. D'autres études ont montré aussi que dans les zones d'agriculture intensive, la biodiversité des sols agricoles a baissé d'un tiers en 50 ans.
Oui, mais ils servent à quelque chose, les vers de terre?
Ouais. Ce sont vraiment les héros méconnus de notre écosystème. En creusant le sol, ils aèrent la terre, donc ça permet de l'oxygéner, ça permet de mieux faire passer la diffusion de l'eau de pluie. Ils avalent des débris organiques, ces vers de terre, et donc ils fournissent des éléments nutritifs aux plantes. Les plantes, donc, qui nous oxygènent, ça permet la croissance des cultures qui apportent de la nourriture dans nos assiettes. On dit qu'en moyenne, un champ passe dans le tube digestif d'un vers de terre, de l'ensemble des vers de terre, en 50 ans. C'est énorme, c'est un rôle essentiel. Donc, comme le dit le co-auteur de cette étude...
Ça, c'est pas le slogan de Patek Philippe. Hein, je tiens à le préciser, là, on est dans autre chose avec vous, Anne Le Gall. Hein,
et je voudrais citer... Je voudrais citer vraiment le co-auteur de cette étude qui s'appelle Nico Eisenhower. Il dit « Les vers de terre n'ont peut-être pas le charisme d'un panda. Effectivement, ce ne sont pas les premiers êtres vivants qu'on a envie de protéger, qu'on a envie de porter en effigie sur un t-shirt ou sur un poster. Mais leur rôle est tellement crucial qu'il faut en parler, leur donner de la visibilité. Donc c'est le rôle rempli par cet atlas et par cette chronique.
Anne Le Gall, les vers de terre, les lombriques vous disent merci si vous pouvez parler avec leur petite bouche.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et oui, nous sommes avec Mathieu Noël et Varoc et toute la bande hein, jusqu'à 18h sur Europe 1. Politique, société, religion, Stéphane Guillon n'épargne rien ni personne dans son spectacle Prolongation à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 28 décembre. Stéphane Guillon que l'on retrouve donc sur Europe 1.
Aujourd'hui, c'est Stéphane Guillon qui nous accompagne. Stéphane, vous êtes actuellement au théâtre Tristan Bernard à Paris du jeudi au samedi à 19h. Pourquoi 19h ?
Parce que mon public vieillit et donc je
vous l'accompagnez.
Je l'accompagne parce que comme ça, il est couché à 21h. Et je pense que bientôt, je vais faire des matinales à 15h avec les arrivées en autocar. Non, pourquoi 19h ? Plus sérieusement, parce que 19h est un horaire... économiquement très intéressant pour les gens parce qu'ils peuvent sortir sans faire garder les enfants, ils peuvent rentrer avec les transports en commun, ils ne sont pas obligés de se faire un resto derrière. Et puis comme ils travaillent le lendemain, voilà, c'est un horaire qui commence à être très très à la mode, le 19h.
Dans ce spectacle, vous évoquez de nombreux sujets dont la vie qui passe, la manif pour tous, la famille recomposée, les réseaux sociaux. Il y a bien sûr votre revue de presse dont on parlera par la suite. Il y a aussi la religion, tout le monde y passe, y compris Mahomet. Il n'y a jamais un moment la notion de peur quand on fait de l'humour? De peur physique, hein, je veux dire, pas, on ne parle pas d'éthique. Je parle, est-ce que vous n'avez pas juste peur que certaines de vos vannes soient mal interprétées par des gens qui ne supportent
non,
pas?
Non, parce que si on écoute le sketch in extenso, on se rend compte que finalement, à aucun moment, il est insultant ou désobligeant. Et ça, c'est hyper important. On sait très bien où je me situe. Et donc, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas de... Moi, je table sur l'intelligence des gens.
Oui, c'est peut-être pas toujours gagné.
C'est peut-être pas toujours gagnant. Payant, pardon.
C'est un beau pari, un noble pari.
Je pense, pour répondre vraiment à la question, que le seul moment où on a eu tous peur, c'est après les attentats de Charlie Hebdo, où on s'est tous demandé, effectivement, il y a eu pendant 6-7 mois ce sentiment d'insécurité. Et en plus, quand vous recevez des gens, vous avez la responsabilité du public. Voilà, j'ai bien plombé l'ambiance.
Oh, est-ce que vous avez déjà subi, en dehors du procès que Nicolas Dupont-Aignan vous intente, des demandes
de me
ce
faire
type
rire. Oui, alors... Il me réclame 75 000 euros.
75 000, c'est pas mal. Hein.
Pour injure. Et alors, j'ai divisé le nombre d'injures par les 75 000 euros. Ça fait quand même 2500 euros l'injure. Ah oui, et je me suis dit qu'à ce prix-là, il n'y avait plus que le Qatar qui peut faire de l'humour.
Une spécificité de votre humour, justement, Stéphane Guillon, on le voit quand on vient vous voir en spectacle, c'est que vous avez l'air d'apprécier ce moment où, avant de rire, le public fait « Oh !»
Ah oui, j'adore ça.
Et pour beaucoup d'humoristes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'entrer là-dedans parce qu'on n'a pas envie d'être trop gênant. Et vous, en fait, vous vous délectez de ça, j'ai l'impression.
Bah, c'est le rire quand il est interdit. Je trouve que c'est
le plus intéressant.
C'est le plus savoureux. Je fais souvent la comparaison avec la prohibition. Quand les gens venaient boire de l'alcool en cachette, moi, j'ai l'impression qu'on vient rire en cachette dans mon spectacle. Et voilà, ce moment de liberté est vachement jouissif pour moi et j'espère pour eux.
Le spectacle actuel qui se joue au théâtre Tristan Bernard est une évolution du spectacle précédent qui en était la base, Premiers Adieux. Premiers Adieux, vous jouez évidemment sur le fait qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui et qu'en gros, bientôt vous allez être obligé de prendre votre retraite. Est-ce que, évidemment, c'est une boutade puisque dans le spectacle vous faites l'inverse, mais est-ce qu'il y a néanmoins un fond de vérité là-dedans ? Est-ce qu'à un moment vous êtes posé sincèrement la question, comme certains humoristes, d'arrêter ?
Arrêter sur oui à la télévision là oui parce que je sentais que j'étais souvent trahi. En revanche, arrêter la scène non, pas du tout, parce que les gens ils me choisissent, ils viennent me voir et donc je peux les emmener où je veux et il y a pas de. Vous savez souvent quand vous balancez une horreur, vous pouvez tout de suite la désamorcer avec un sourire, avec une mimique. Vous pouvez aussi pratiquer ce que je fais beaucoup dans le spectacle, l'autodérision, c'est-à-dire me moquer de moi-même.
Ce que vous faites à la fin du spectacle, notamment.
Ce que je fais à la fin du spectacle quand je me désingue. Donc je pense que j'aurais d'ailleurs mauvaise grâce à taper sur tout le monde et à m'épargner.
Eva ?
Pourquoi vous vous dites trahi quand vous parlez de la télévision ? Trahi par qui ou par quoi ?
Parce que vous avez ce qu'on appelle ces machines à buzz maintenant, qui sont ces trucs sur Internet, là, ces sites d'info, où on va prendre une phrase et on l'extrait de votre contexte. Et souvent, les gens ne prennent pas la peine d'aller lire votre déclaration ou regarder la vidéo in extenso. Ils prennent juste le truc et disent « Putain, Guillaume a dit ça, quel salopard !» Et c'est cette trahison qui finalement, à terme, surtout quand vous balancez des choses comme ça m'arrive de le faire, qui finit par détériorer votre image et vous faire une sale réputation.
Bon. Dans votre spectacle, Stéphane, vous dites oui. « Quand on fait de l'humour noir, on a forcément une espérance de vie limitée. À force d'écrire des saloperies, on finit par les attraper. » Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter un papier, une vanne, qui sur le moment vous paraissait, ça vous titillait de le faire, oui. Puis après oui. Avec le contre-coup, vous avez regretté.
Ce que j'ai souvent regretté, c'est les papiers que j'ai faits chez Stéphane Bern à 20h10 pétante, qui consistaient à désinguer l'invité, la vedette. Et parfois, oui, je me disais que c'était un peu parfois outrancier. Il ne faut pas prendre les gens pour des punching balls. En revanche, je n'ai jamais regretté mes papiers sur les hommes politiques, parce qu'eux savent se défendre. Et puis voilà, là-dessus, je ne me suis jamais excusé, mais il m'est arrivé effectivement, vis-à-vis de Michel Galabru et d'autres, de Michel Delpech aussi, de dire voilà, c'est un mauvais papier, je suis désolé.
En même temps, ce n'est pas pour prendre votre défense, mais le problème, c'est de savoir à qui on parle. Vous êtes un humoriste, c'est votre patte, l'humour noir. Vous êtes payé pour être irrévérencieux. C'est-à-dire, quand on achète une Ferrari, on ne peut pas critiquer le fabricant pour dire ça va trop vite.
Je suis très touché que vous me compariez à une Ferrari plutôt qu'à une Fiat 500. Là, vraiment, ça me
effectivement,
droit au cœur.
Quelque part, est-ce que vous n'êtes pas victime d'une époque où quand même le politiquement correct a une chape de plomb qui pèse sur les journalistes, même ceux qui sont dans la case journaliste satirique, quoi.
Mais c'est-à-dire que quand j'ai démarré en 2003, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé, on désinguait l'invité, c'était un truc qui ne se faisait pas. Je me souviens quand j'avais rendu hommage aux mémoires de Sylvie Vartan, un livre magnifique que je relis encore aujourd'hui. Il y avait tout le fan club de Sylvie Vartan qui était dans le studio et les gens étaient furieux, quoi, parce que ça ne se faisait pas. Et maintenant, malheureusement, j'espère ne pas avoir lancé un courant. C'est à la mode, le désengage. Donc, ce n'est plus du tout la même époque.
Mais du coup, vous restez dans le désengage ou vous essayez d'évoluer pour...
Parce non, que maintenant, plus de gens le font. D'abord, ça ne vous a pas échappé. Je réserve mes saillies pour la scène, exclusivement pour
exclusivement.
La scène.
Toutes les saillies sont parce payantes que... avec Stéphanie. Voilà. C'est-à-dire que, sinon, ça n'a pas d'intérêt économique.
Ce n'est pas que ça n'a pas d'intérêt. C'est que, si vous voulez, je pense que moi, la télévision telle qu'on me la propose aujourd'hui, elle m'intéresse plus.
Il n'y a plus de place pour vous à la télévision aujourd'hui.
Pas cette télé-là, je ne citerai personne.
Pas mais, sur CNews, on a compris.
Mais ces faux happenings, ces émissions montées, ce buzz pour le buzz, ces tribunaux populaires qui s'instaurent à certaines heures de grande écoute, ça me fait gerber et j'ai pas envie de ça. Je trouve que voilà, j'adorerais faire de la radio, refaire de la radio, mais la télévision terminée.
Il n'y a pas un humoriste qui trouve grâce à vos yeux aujourd'hui.
Plein d'humoristes, mais sur scène.
Mais sur scène uniquement. Voilà.
Blanche, oui. Cardin,
Gaspard
Proust, évidemment. Beaucoup trouvent. J'aime beaucoup la génération actuelle. Je trouve qu'il y a énormément de gens qui ont beaucoup de talent.
Et la radio.
Et vous aussi, Mathieu.
Oui, ne dites pas n'importe quoi, Stéphane, mais la radio, par exemple. Parce que vous avez dit la télé ne vous intéresse pas, mais la radio, éventuellement, ça reste un espace assez libre encore.
Mais j'adorerais faire de la radio, mais personne ne manque.
N'importe quoi, il va nous faire pleurer, Eva.
Et est-ce que vous vous auto-censurez sur scène, qui non. est votre royaume?
Mais l'auto-censure, je pense que, si vous voulez, j'ai souvent dit que l'humoriste n'était pas un citoyen au-dessus des autres. En revanche, il a le droit à l'outrance. Nous avons le droit à l'outrance. Mais sinon, il faut rester dans le champ de ce qui est acceptable. Un humoriste n'a pas le droit à la diffamation, à, évidemment, à tenir des propos antisémites ou racistes. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, on enfonce des portes ouvertes.
Vous me compariez tout à l'heure hors antenne, oui, pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs, à Michel Drucker. Et je veux pas vous faire une
Drucker. Mais quel chien galeux.
Mais en revanche, mais non, justement, parce que j'allais vous faire un compliment. Je trouve que, oui, ce que j'apprécie chez vous, c'est votre lucidité. Là où beaucoup d'humoristes tirent la couverture à eux, vous, vous êtes lucide sur le milieu des humoristes. Vous dites, avec beaucoup de franchise, j'ai eu ma période, ce sont des cycles. Après, il y a eu Gaspard Proust, puis Blanche Gardin. C'est assez fort comme ça d'avoir une lucidité sur... vous pourriez être, je ne sais pas, revanchard ou estimer que vous êtes le meilleur et que vous allez les éclipser à nouveau. Vous estimez que bon, il y a des cycles, ce n'est pas grave, c'est comme ça.
C'est comme ça et moi, je ne me force pas, mais j'ai la chance, j'adore le talent des autres. C'est un truc qui me... Dès que je vois un beau film ou un beau spectacle ou un spectacle d'humour top, je sors hyper heureux. Donc ça ne me pose aucun problème de savoir que oui, j'ai eu la main, que je l'ai moins aujourd'hui, que je l'aurais peut-être de nouveau, que ça reviendra. Les carrières, c'est ça. Vous n'avez aucune carrière qui est au top. Vous avez toujours des moments de... Et c'est justement la façon dont vous allez gérer les moments qui sont difficiles où vous allez, je crois, faire la différence. Mais quand on voyait, par exemple, Aznavour, bah Aznavour, il a eu des moments extrêmement difficiles. Et puis, il est revenu. Mais Johnny Hallyday, là, je prends vraiment les plus grands. C'est que ça. C'est des histoires de moments très hauts et de moments beaucoup plus bas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
2 heures au service de votre culture générale, tel est le vœu de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1 de 16h à 18h. Mathieu Noël que l'on retrouve à présent en compagnie d'Eva Rock, de son invité Olivia Ruiz qui était venue cette semaine nous parler de son rôle dans le téléfilm policier État d'urgence diffusé sur France 2. Présent également un chroniqueur car la compétition continue.
Olivia, on le sait, vous avez démarré dans la Star Academy en 2001. Mm-hmm. Vous avez bien connu Nikos Aliagas, lui aussi. Certaines mauvaises langues prétendent même qu'il l'aurait un peu trop bien connu. Des ragots probablement liés à leur duo comique l'année dernière sur l'antenne d'Europe 1.
Dès que la route devient glissante...
Oh, la route.
Eh bien, le pneu va changer de forme, il va devenir plus étroit.
Je visualise.
Et l'intérêt, c'est que ça va réduire la surface de contact sur la route.
Ouais, mais c'est pas pareil.
Avec la neige, il faut plutôt avoir des chaînes.
Des chaînes, dites-vous, oui.
Ces rainures et ces petits picots qui rausculent la surface du pneu.
Ah, les picots qui rausculent, c'est mon truc, ça. Merci beaucoup.
C'est parce que vous avez trafiqué l'année dernière avec Aliagas, mais vous étiez visiblement très proche de lui.
On s'adore.
On l'embrasse, vous adorez. Vous êtes notre expert innovation et cet après-midi, vous nous parlez des progrès inquiétants, cette fois, de la génétique.
Oui, très important parce que la génétique, notamment pour déterminer le sexe de son enfant, et on a tous entendu des méthodes de grand-mère pour choisir un garçon ou une fille. Hein, vous connaissez le régime sans sel. Voilà, le régime sans sel pour avoir une fille, des positions, la levrette pour avoir le garçon.
Oui, bien sûr.
Un orgasme, j'ai entendu qu'il fallait avoir un orgasme pour avoir une fille aussi, j'ai vu ce genre de choses.
Ah, parce que pour un garçon, on n'a pas besoin d'avoir d'orgasme.
Non, parce que, bon, pour vous expliquer, parce que certains spermatozoïdes sont plus lents que d'autres, et donc, enfin bref. Si ça fonctionnait, ça se saurait.
Olivia Ruiz est en train de me regarder.
Perplexe.
Elle m'a lancé un regard, l'air de dire, mais lui, c'est vraiment le type qui s'occupe de l'innovation sur un pas, mais il a quel diplôme en fait.
Justement, ça c'était les conseils de grand-mère. Mais sauf que la science s'y est mêlée. Des chercheurs japonais ont trouvé une technique extrêmement simple pour séparer les chromosomes, enfin les spermatozoïdes X des spermatozoïdes Y. Vous savez que les spermatozoïdes X. Le spermatozoïde X, c'est celui qui va donner des filles, puisque à ce moment-là, j'appelle XX. Et les spermatozoïdes Y va donner des garçons des X, Y. C'était extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir séparer ces deux spermatozoïdes. Donc souvent, ce qui se passait, dans une fécondation in vitro, on allait directement chercher l'embryon. Regardez, si c'était un embryon, c'était un garçon. On le gardait, c'était une fille. Ou sinon, il fallait faire des analyses génétiques. C'était extrêmement cher. Eux, ils ont trouvé complètement par hasard une espèce de petite potion magique. Quand on la rajoute au sperme, il va bloquer complètement les spermatozoïdes X ou les spermatozoïdes Y. Ils ne peuvent plus avancer. Et donc, comme ils ne peuvent plus avancer, on peut imaginer des méthodes. C'est une méthode extrêmement simple pour trier les spermatozoïdes ou les spermatozoïdes Y.
Mais c'est une révolution, ça.
Mais oui, c'est une révolution.
Mais
c'est une révolution, notamment. Notamment pour, parce qu'on en a d'abord parlé pour les éleveurs qui sont, vous savez, aujourd'hui le traitement des bovins ou notamment des porcins c'est assez inhumain parce que quand on veut des vaches laitières, eh bien on va tuer les veaux mâles et quand on veut des vaches à viande, eh bien on va plutôt tuer les veaux femelles.
On va pouvoir en amont choisir et
on
y aura
va pouvoir
plus de...
en amont choisir et ce sera un peu plus éthique dans les fermes. Pareil pour les cochons, vous savez que les porcs mâles, quand on les fait cuire, il y a une espèce d'odeur extrêmement forte à la fin, donc on est obligé de castrer les porcs quand ils sont encore prépubères, donc on n'aura plus besoin de faire toutes ces manipulations à la ferme à l'avance. Mais évidemment,
ça pose d'autres questions éthiques pour nous.
Des questions éthiques parce qu'on se dit que si ça fonctionne sur les mammifères, ça fonctionne sur les porcs, ça fonctionne sur les vaches, ça fonctionne sur les souris, et bien évidemment, ça peut fonctionner sur les hommes. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les techniques, quand on fait de la fécondation in vitro, encore une fois, je le répète, ça coûte extrêmement cher. Il faut analyser les chromosomes de chacun des chromosomes pendant la fécondation, ou sinon trier les embryons, ce qui est interdit dans pas mal de pays. Mais là, on peut imaginer une crème, un gel, que l'on pourrait mettre, et ce serait une espèce de préservatif à fille ou un préservatif à garçon. Oh, un gel tout simple qu'on utilise, et on pourrait décider d'avoir que des garçons ou de n'avoir que des filles. Et donc, ça pose énormément de questions éthiques.
Bah, ne serait-ce que pour l'équilibre homme-femme sur la planète. Si tout le monde décide d'avoir des garçons, par exemple, ou que sais-je, enfin, ça va créer un déséquilibre. On ne peut pas se permettre
exactement.
Ça va forcément être interdit à Nice.
Exactement. Il y a des comités éthiques aujourd'hui qui interdisent le tri des embryons, mais pas dans tous les pays. Aux États-Unis, par exemple, le tri des embryons est autorisé. Il y a des pays qui ont favorisé plutôt un sexe que l'autre. On se souvient de la politique de l'enfant unique en Chine, qui a fait un ravage sur les petites filles. Ça existe, ce déséquilibre a été créé dans pas mal de communautés, dans pas mal de cultures dans le monde. Il y a aussi des gens qui, on connaît tous ces techniques, qui veulent plutôt avoir une fille, qui veulent plutôt avoir un garçon. Donc ça inquiète énormément ce genre de technique. Mais vous l'avez rappelé, c'est interdit aujourd'hui. Là où on a un problème avec cette technologie, c'est qu'on ne pourra pas interdire un gel. C'est-à-dire qu'on peut interdire une analyse en laboratoire,
oui,
une implémentation d'une fille.
Mais un gel qu'on commande sur Amazon,
beaucoup plus compliqué. Notamment si justement on peut l'acheter n'importe où, si c'est interdit dans un pays, ce n'est pas forcément interdit dans d'autres. Donc on se pose des questions. La nature est extrêmement bien faite aujourd'hui. Moi, je sais qu'il y a une artiste formidable qui chantait une chanson qui disait
« I need a child ».
Pas qu'elle voulait un garçon ou elle voulait une fille, elle voulait juste un enfant, parce que la nature est plutôt bien faite. Si aujourd'hui on a 50%, enfin 51-50 de garçons et de filles, c'est peut-être pas pour rien qu'on a cet équilibre qui fonctionne.
Écoutez, Anissé, j'aimais bien ce sujet, je le trouve intéressant, puis je trouve que c'est un petit peu facile d'avoir mis la chanson d'Olivia Ruiz à la fin pour essayer de glaner des points. J'y vois une manœuvre.
Oui, moi j'étais sortie
de la compète.
Et
oui, Olivia, parce que vous votez à la fin. Et donc là, vous voyez, rien n'est gratuit avec Anissé, à mon avis, tout est calculé.
C'est incroyable, on vit dans une époque incroyable.
h 18h sur Europe 1,
l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, on se divertit, on s'informe en même temps avec Mathieu Noël. Il est maintenant 16h48, place à Emmanuel Duteil qui a choisi de porter son attention sur ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, et ce en présence du réalisateur Patrice Lecomte, qui était l'un des invités de Mathieu Noël cette semaine.
Bon, voilà Duteil,
on vous écoute. Alors moi j'ai même plus le relancement, vu que je suis dans les bas-fonds du classement. Parle de ce que tu veux, amuse la...
Vous nous parlez de la désaffection de l'opinion publique anglaise envers Meghan Markle et Harry.
Voilà, effectivement. Et donc rien ne va plus chez les Sussex, c'est comme ça qu'on appelle le couple. Pourtant tout avait si bien commencé, vous vous en souvenez, comme un conte de fées, un mariage magnifique, des milliards de téléspectateurs, une robe mais extraordinaire, une émotion folle, une proximité extraordinaire avec son frère William qui était son témoin de mariage, une popularité sans faille. Bon, il y avait quand même le père de Meghan Markle qui avait créé un peu la
polémique,
puis il y avait une demi-sœur un peu trop bavarde et tout. Mais bon, ça, on avait mis ça de côté. La famille royale britannique avait su très bien gérer. Et puis, ça faisait presque partie du mythe. C'était formidable. Le couple était tout réjouissant. Puis, alors, purée, extraordinaire. Le bébé qui arrive tout de suite, ça fonctionne quasiment du premier coup. Mais voilà, la machine. Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça arrive tout de suite derrière,
mais je voyais la conception du bébé aussi qui fonctionne du premier coup. Du coup,
bon.
Voilà. Alors, pourquoi ce revirement, alors, Emmanuel, si tout était.
Eh bien, déjà, parce qu'ils ont commis plein d'erreurs et plein d'erreurs de débutants. Alors sûrement qu'ils avaient été un petit peu grisés par ce succès en se disant « Bon allez, William et Kate, ils sont démodés, c'est nous maintenant le couple de la famille, c'est nous les modernes. » Bon, je vais quand même vous donner quelques exemples sur les erreurs. Déjà, quand le petit est arrivé, ils l'ont appelé Archie. Alors on peut trouver ça beau ou pas beau, mais alors personne n'avait prévu ça. Et dans la famille royale britannique, c'est un petit peu quand même codifié que la façon dont on appelle son enfant. Donc ça déjà, ça s'était pas très bien passé. Et puis surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais la présentation de l'enfant. D'habitude, quand on est comme ça parmi les tout premiers rangs de la famille royale britannique, on sort de la maternité, généralement 8 heures quasiment après l'accouchement, on est toute pimpante et à côté le papa est tout beau. Là, non, Madame Meghan voulait le faire tranquille, chez elle, elle voulait pas être vue. Peut-être que, comme Mathieu a l'air de se dire, elle a bien raison. Sauf que donc, on a eu quoi en photo? On a eu Harry qui est arrivé avec Archie dans les bras. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, les Britanniques? Ils ont dit, vous êtes bien gentils, mais là, la maison de laquelle tu sors, là, ton petit manoir à côté de Windsor, c'est nous qui venons d'en payer totalement la rénovation, parce qu'en plus, monsieur ne veut pas vivre à côté de son frère du côté de Londres, donc à Kensington Palace. Donc ils sont à côté de Windsor, ça a coûté des millions de livres de rénover tout ça. Et en plus, les Britanniques n'ont pas le droit de voir correctement la princesse, et pas le droit de voir correctement.
Ah, ils donc, sont... ça,
Ça, c'était vraiment la première bourde. On a eu aussi ces derniers mois plusieurs bévues sur la communication. Sarkari a beaucoup critiqué, notamment les tabloïds, et a fait référence en plus beaucoup à sa mère en disant, là aussi je caricature un peu, mais en disant, vous voyez ce que vous avez fait à ma mère, si vous continuez comme ça avec Meghan, vous allez avoir la même chose. Donc on parle bien évidemment d'un traumatisme. Il a critiqué, dénoncé publiquement le rôle des médias jusqu'à ce fameux documentaire qui est passé la semaine dernière à la télévision britannique.
Et en quoi il pose un problème ce documentaire ? Qu'est-ce qu'il y avait comme révélation ?
Il rassemble toutes les erreurs à ne pas commettre. Déjà, semble-t-il, ils n'avaient pas véritablement prévu, les services de la couronne, de dire on a fait un documentaire un petit peu larmoyant à la fin de notre tournée en Afrique du Sud. Donc déjà, vous imaginez un peu le cinéma quand la reine a pu découvrir cela. Et puis surtout, là, Meghan nous dit « Oh là là, ma vie est atroce, qu'est-ce que c'est dur, je suis épiée. » Elle dit quand même à un moment « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. » Elle est starlette de la télé américaine. Elle se doute bien que si elle avait raté une marche pour monter aux Oscars, elle aurait fait la une de n'importe quel média. Bon, bah là, elle ne rate pas de marche, mais elle n'est juste pas douée dans sa communication. Donc bien évidemment, elle se fait attraper. On a eu aussi...
Je sens que vous ne l'aimez pas, Emmanuel. Je sens que c'est personnel.
Non, moi, j'ai aucune critique envers elle. Mais on a aussi eu Harry qui nous dit « Ah bah oui, avec mon frère, il y a des hauts et des bas, là on est plutôt dans un bas. » Mais non, mais ils sont pas payés pour ça, la famille royale britannique. Ils sont payés pour quoi ? Ils sont payés pour aller déposer des fleurs devant n'importe quelle circonstance, ils sont priés de sourire et ils sont priés d'incarner le pays. Et en plus, à un moment où le pays est déjà secoué par le Brexit et déjà en opposition, on n'a peut-être pas besoin d'avoir Harry et William qui se font la gueule. C'est quand même pas tout à fait utile entre les deux. Donc ça ne se fait pas, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire. Mais et en plus, ils ont rajouté à ça, on est fatigué, on est épuisé par tout ce qui est en train de nous arriver. On prend 6 semaines de pause au moment de Thanksgiving pour aller un peu se reposer, notamment aux États-Unis, hors des médias, ce qui veulent également s'occuper de leurs enfants. Enfin bon, quand vous êtes dans une société anglo-saxonne où vous n'avez pas 6 semaines de vacances à la suite, ils sont bien gentils là aussi de prendre un petit peu sur eux. Donc la reine, là aussi, n'a pas été.
Cet édito, je ne vous avais jamais
connu. C'est plutôt une chronique, c'est un édito.
Si enflammé, quoi. Vous savez qu'on va avoir des problèmes.
On va peut-être avoir des problèmes, mais on va attendre les fêtes de Noël. Pourquoi ? Parce que c'est un moment extrêmement important de réunion familiale, toujours autour de la reine. Donc là, si par exemple, ils vont à la messe de Noël enfin tous ensemble...
Ils seront pardonnés ?
Ben non, mais déjà, ça voudra dire qu'au minimum médiatiquement parlant, on a essayé de rabibocher le tout, et puis ben, peut-être qu'à nouveau les frères, les belles-sœurs et tout le bazar se seront mieux entendus.
Tout le bazar. Et Varrock ?
Mais 6 semaines de vacances pour se reposer...
Non, de repos.
Mais de repos de quoi ? Parce que ça veut dire qu'ils étaient fatigués
de...
Ah, de pression.
Non, mais du bébé, pardon.
Non, mais à leur décharge, ils ont une grosse pression médiatique. Ils sortent d'une très très grosse tournée, notamment en Afrique du Sud. Donc ça, c'est quand même extrêmement fatigant.
Ils chantent pas, mais...
Et qu'effectivement, il y a eu quand même la naissance du petit Archie il y a quelques mois. Et puis comme Mathieu nous a parlé de la gastro de sa fille, on sait que ça fatigue. Quoi.
Bah, oui, voilà. Mais sauf que eux, Mathieu, oui. Ils ont plus de nounous que vous, je crois. Ils ont des nannies.
Mais il n'empêche que quand vous avez un bébé qui arrive dans un couple, on sait que c'est fatigant.
Ils veulent s'en occuper quand même.
Bien sûr, c'est plutôt tout à leur honneur. Moi, je les défends.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Et on reste avec Mathieu Noël qui accueille à présent l'un de nos correspondants en région en présence de Stéphane Guillon qui, je le rappelle, est à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à Paris jusqu'au 28 décembre avec son spectacle Prolongation.
Stéphane Guillon, si vous trouviez déjà nos journalistes en studio un peu cintrés, je vous propose de découvrir nos correspondants en région. C'est encore un autre niveau de cintrage, notamment du côté de Nice, où vit habituellement Frédéric Michel. Eva, vous connaissez évidemment Frédéric Michel.
Mais oui, par Jackie et Michel.
Oui, bonjour Frédéric.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Désolé,
des élans
Frédéric.
Sur la Côte d'Azur. Vous avez bien entendu, des élans, ces majestueux cervidés qu'on a plutôt l'habitude de rencontrer dans les pays nordiques. Et là, c'est à Torrent, dans l'arrière-pays grassois.
Torrent, pardon.
Et non pas à Torrent, parce que moi j'étais un peu au Québec.
Mon
déjà.
Dieu.
Faites genre, vous connaissez, vous avez déjà joué à Torrent, vous ?
Évidemment.
Oh, quel faux cul. Dans l'arrière-pays grassois, à Torrent, un jeune mâle vient d'être réintroduit. Frédéric Michel, que se passe-t-il ?
Effectivement, un jeune mâle, Mathieu, puisqu'à l'origine de cette réserve naturelle, il y a un autre mâle, c'est un infatigable vétérinaire, Patrice Langour, et son épouse Alana. Ils ont commencé par réintroduire au début des années 2000 le bison d'Europe et les chevaux de Przewalski. Vous les connaissez ?
Oui, parce que je vais souvent dans les zoos avec mon fils et le cheval de Przewalski, c'est la plus vieille espèce de cheval d'Europe, non ?
C'est celui qui orne les murs de la grotte de Lascaux.
Voilà.
Un cheval qui était présent sur nos terres à la préhistoire, comme le bison. Hein. Et l'élan, lui aussi, avant de migrer vers les contrées du Nord, était présent sous nos latitudes. Il aurait disparu au 9e siècle environ. Aujourd'hui, il cohabite dans un parc de plusieurs centaines d'hectares au milieu de nombreuses autres espèces, des renards, des cerfs, des sangliers et des daims. Ils sont 5. Eux aussi ont été récemment réintroduits, comme ce petit élan qui sera bientôt rejoint par 3 femelles.
Comme relance, Frédéric, vous avez prévu cette phrase, mais réintroduire des espèces sauvages comme le bison ou les élans, ce n'est pas un peu farfelu? Je vais vous demander, est-ce que ce n'est pas surtout complètement con? J'irai plus loin.
Non, ce n'est pas l'avis de Patrice. Hein. Langour, leur présence crée un véritable écosystème. Hein. On voit d'ailleurs...
Ne t'énerve pas. Il te cherche, mais ne t'énerve pas.
On voit d'ailleurs les sous-bois se modifier, la flore se développer, des oiseaux revenir. Le but de ce projet écologique est simple, que les animaux retrouvent leur juste place dans la nature. Alors, en calèche ou à pied, les visiteurs peuvent les approcher à distance, tout de même, pour ne pas les perturber. Après avoir passé une grande partie de sa vie en Afrique, hein, au Botswana, notamment, Patrice Langour s'est donné pour mission de faire connaître ici, chez nous, la vie sauvage.
Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est ouvrir un espace important, puisqu'on est sur quasiment 700 hectares, d'y mettre la faune qui aurait dû être là et qui était là il y a simplement 10 000 ans, et de présenter cette faune au public. Donc on a découvert plein de choses ici, parce qu'on a mis les animaux dans leur meilleures circonstances possibles et que nous, humains, on entre dans leur univers. Ce n'est pas les animaux qui rentrent dans le nôtre, c'est nous qui rentrons dans le leur.
Et vous avez vu cet élan, vous, Frédéric Michel, de vos yeux? Comment ça, non?
Non, il faut un temps d'adaptation. Hein. Le parc est grand, c'est comme chercher
pour
une aiguille.
Pour vous ou pour l'élan?
Pour les deux. Hein. C'est comme chercher une aiguille, hein, dans une meule de foin. Cette réintroduction, ce n'est pas pour faire venir plus de visiteurs, mais c'est juste la continuité de ce projet un peu fou, car Patrice Langour, depuis 20 ans, a saoulé les montagnes. Il s'est heurté à beaucoup de problème, hein, à l'administration d'abord, aux agriculteurs, aux chasseurs. Mais rassurez-vous, les bisons, les chevaux et sans doute demain les élans se sentent tellement chez eux qu'ils nous laissent cette chance immense de les approcher et de les observer. Moi, je suis allé plusieurs fois au parc et j'ai toujours vu des bisons, des chevaux de Przewalski et demain sans doute les élans.
Et c'est dans la région de Nice, hein, c'est ça?
Alors c'est dans l'arrière-pays, Grassois, oui, c'est Grassois, juste derrière. C'est
ça, parce qu'il y a aussi, l'Eric Ciotti qui a été réintroduit là-bas et qui malheureusement s'est reproduit depuis.
Et lui, on peut le voir facilement, je crois.
On peut le voir facilement. Aussi.
La réserve est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires. Pas pour voir Eric Ciotti, hein, pour voir les élans. Et le parc sera fermé du 11 novembre au 30 novembre. Merci Frédéric Michel, ou plutôt Ochen Spasiba, comme on dit à Nice, où le français n'est que la deuxième langue derrière le russe. Je vous salue donc avec un chant typique de chez vous. Au revoir Frédéric.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h. Europe 1, 16h-18h, l'équipe sauvage.
Et autour de Mathieu Noël, on va retrouver sa grande complice, Eva Roch, les journalistes d'Europe 1 prêts à batailler à coups de chroniques et les invités de la semaine passée. Le week-end, vous le savez, on revit les moments marquants de l'émission. Alors, durant cette prochaine heure, avec le directeur adjoint à la rédaction du Point, Christophe Onodibio, eh bien, on va savoir s'il va gagner face à Eva Roch sur un quiz. Au programme également, la recette facile et pas chère d'Olivier Pouls. L'histoire rapide du temps racontée par notre spécialiste ciel et espace au menu également. On parlera salaire chez les navigateurs. Et puis vous découvrirez aussi le métier de facialiste. Mais tout de suite, découvrez le sujet défendu par Laure d'Autriche devant l'écrivain Maxime Chattam.
Face à vous, Maxime Chattam, une des plus performantes journalistes d'Europe 1 qui va peut-être vous fournir clé en main l'idée de votre prochain roman. Puisqu'en effet, Laure d'Autriche, un être mystérieux, informe et dépourvu de cerveau, mais bien vivant, a fait son entrée aux eaux de Vincennes.
Oui, le blob. Et je prends le risque avec cette chronique de ne pas vous parler de science-fiction, mais de science. Et ça va vous montrer aussi que le réel, parfois, justement, dépasse la fiction. Le blob, c'est vraiment une bestiole étrange, gluante, qui a plusieurs couleurs, qui a des blobs jaunes, rose fluo. On peut le faire changer de couleur aussi en lui donnant de la betterave, par exemple. Oui, absolument. Et ce n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Mais ça existe pourtant dans la nature depuis 500 millions d'années. Alors, visuellement, ça ressemble à une feuille de chou, hein, quelque chose d'un peu gluant, flasque, une espèce vivante vraiment surprenante. Alors, il se nourrit, mais il n'a pas de bouche. Il se déplace, mais il n'a pas de pattes, pas d'ailes, pas de nageoires.
Attends. Comment il se nourrit ?
En fait, c'est une cellule rampante qui se déplace 3-4 cm par heure, qui grandit chaque jour et qui va absorber la nourriture qu'il va croiser sur son chemin.
Il alors... va aller jusqu'à Destin.
J'espère qu'il n'est pas sur les invités.
Pardon, monsieur le président.
Alors, le blob, vous pouvez aussi le couper en morceaux et il grandit à nouveau, il se multiplie. Il est quasi immortel, mais il souffre pas quand vous le coupez parce qu'il n'a pas de cerveau, hein, donc pas de système nerveux.
Mais il n'a pas de cerveau, mais est-ce que c'est un être vivant intelligent quand même ?
Alors oui, il est intelligent. Enfin,
Quoi on peut être intelligent sans cerveau ?
Il n'a pas de cerveau, mais il est capable d'une forme d'intelligence. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Il est capable, par exemple, de trouver la sortie d'un labyrinthe par le chemin le plus court. Il est capable de sélectionner sa nourriture. Il adore les flocons d'avoine, par exemple. Et il a une sorte de mémoire qui fait qu'il ne refait jamais plusieurs fois la même erreur. Par exemple, il déteste le sel. Et s'il y a une barrière de sel sur son chemin qui l'empêche de passer, il est capable de la contourner. C'est quand même assez fascinant ce qu'est capable de faire le blob. Ouais.
C'est invraisemblable. Mais à quoi il sert dans la nature, ce blob ? Qu'est-ce qu'il apporte ?
Alors, il est assez intéressant parce que, surtout d'un point de vue écologique, c'est un prédateur, un chasseur de bactéries. Il va digérer les bactéries et ensuite il va rejeter des micro-éléments que les champignons, les plantes vont utiliser pour se nourrir. Donc il a un rôle de nettoyeur un peu de la nature et il pourrait même être utile à l'homme et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que disent vraiment les scientifiques. On n'en est qu'au début des recherches, mais le blob a un système veineux très efficace qu'on pourrait copier peut-être et on pourrait même s'en servir pour apprendre à lutter davantage contre les bactéries ou même les cancers. Ça va jusque-là, c'est le début seulement des recherches, mais c'est absolument fascinant et on trouve ça, disons, dans les forêts, hein, le blob. Il aime plutôt les ambiances. On en trouve, oui. Et puis, partout dans le monde, hein, des blobs tout à fait différents, ils aiment être dans des endroits plutôt sombres et humides. Voilà, donc plutôt dans les forêts, le blob.
Vous êtes en train de me dire que ça se trouve, j'ai déjà vu croiser un blob et dans ma vie, sans le savoir.
Sans doute jaunâtre, parce qu'en France, il y a surtout des blobs jaunes, et c'est possible. Faites attention, si vous voyez sur une branche d'arbre quelque chose d'un peu coloré, d'un peu gluant, c'est peut-être un blob.
C'est pour ça qu'elle avait un drôle de goût, cette poêlée de champignons. Il a fallu que je demande à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment. Eva Rock.
Il est aux eaux de Vincennes maintenant, ce blob ?
Il est aux eaux de Vincennes. Pour la première fois au monde, un zoo vient de permettre au public de voir un blob. Il est dans un vivarium et vous pouvez observer ça, donc sur des branches d'arbres aux eaux de Vincennes, oui.
Il vient de manger les serpents de sa cage et il mesure 3 mètres de long.
Ça grandit très vite. Les scientifiques font vraiment attention là-bas à sa taille. Voilà.
Laure, vous avez beau être la meilleure, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Jérôme Lacroix.
C'est dur de faire poser une question vache à l'heure de triche.
Alors, vous prenez sur vous, mon gant.
J'ai quand même une question. Il y a un sujet, me semble-t-il, que vous n'avez pas abordé. J'ai peut-être lu des grosses bêtises, mais j'ai lu quelque chose de très surprenant sur le sexe des blobs.
Oui.
Ça, évidemment.
Non, alors, mais vraiment, c'est
étonnant. Le blob a 720 sexes différents.
Waouh.
Voilà, 720 sexes différents pour les blobs. Oui, tout à fait surprenant.
Mais
oui.
Attendez, moi, j'en connaissais que le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Comment on peut en avoir
Il y a une fusion
le
qui
bon
peut
sens
se faire,
chez
mais
vous.
Effectivement, il y a tellement d'espèces différentes que jusqu'à maintenant, 720 sexes différents étaient repérés. Oui,
et comment se reproduit le blob ?
Alors, il fusionne, il se reproduit.
Dans Dragon Ball Z.
Quand deux blobs se croisent, ils peuvent fusionner, c'est quand même assez fou. Mais effectivement, il se reproduit quand deux blobs aussi se croisent. Mais voilà, 720 sexes différents, c'est assez étonnant, oui.
Maxime Chatham, vous connaissiez le blob, l'existence de cet animal
étrange ?
Absolument
pas, mais ça ferait un bon sujet de livre.
N'est-ce pas, hein ?
Il aurait beaucoup à écrire.
Ah, j'ai adoré votre chronique, mais si vous aviez pu rajouter, ça aurait été génial. Au moment où vous parlez de son appétit, qu'il adore manger de la chair humaine, là, j'aurais adoré.
Mais ça se trouve, il aime ça aussi. On enquêtera.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Chaque après-midi, vous écoutez Mathieu Noël pour 2 heures d'infos et de bonne humeur. À ses côtés, à présent, Olivia Ruiz et Eva Rock, que voici.
Pour être totalement honnête, j'ai découvert un nouveau métier. Et pour être exact, c'est un nouveau métier surtout en France, parce qu'aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs années que ça existe. Je vous présente donc Delphine Langlois. Elle a 40 ans et sa profession, c'est facialiste.
Alors facialiste, donc, c'est une professionnelle qui est diplômée de l'esthétique et qui est spécialisée dans le visage. Donc, c'est-à-dire que j'ai entre mes mains différentes techniques de massage. Les clientes viennent me voir parce qu'elles sentent leur visage fatigué. Elles sont en manque d'éclat. Voilà, elles sentent un manque de tonicité, de fermeté. Donc elles viennent me voir pour tout ça, pour justement rebooster la peau, tonifier les muscles et avoir une action anti-âge.
Donc rendez-vous dans le cabinet de Delphine Langlois, du jazz en ambiance sonore. Sur la table de massage chauffante, il y a Christine. Christine, depuis un an et demi, elle vient se faire masser le visage.
Attendez, on va faire un point là-dessus quand même. Oui. Eva, en fait, vous êtes allée vous faire un soin, faire un soin gommant et la meuf, elle en a fait un reportage pour Europe 1.
Mais non, écoutez la suite. Non, mais écoutez la suite. D'abord, si vous m'avez bien écouté, c'est Christine qui est sur la table de massage et c'est pas moi.
D'accord.
Voilà. Alors tout débute avec des grands gestes qui sont réalisés par Delphine, notamment sur les joues pour chauffer les muscles, parce que notre visage compte 54
quatre muscles. Et puis petit à petit, Delphine, elle va travailler par pincement, elle appelle ça l'effet gonflette. Et puis elle va faire du stretching avec vos muscles du visage, exactement comme pour les autres muscles du corps. Elle a appris toutes ces techniques, notamment celle du Kobido auprès d'un maître japonais. Elle a suivi des cours aux États-Unis et puis surtout, elle s'est replongée dans des manuels pour comprendre les mécanismes de la peau, des muscles et de la lymphe. Pendant ce temps-là, le massage se poursuit sur Christine avec une autre technique plus étonnante, un peu déroutante, le massage intrabuccal.
J'ai enfilé mon index dans la bouche et donc j'effectue une pince entre mon index et mon pouce pour masser les muscles, voilà, en interne et en externe. Et donc ça permet voilà, d'avoir une action beaucoup plus profonde. Donc là, je travaille au niveau du sillon nasogénien. Je vais pouvoir repulper cette zone-là.
Repulper.
Oui, non, mais alors, c'est, les gestes sont.
Olivia a envie de prendre rendez-vous.
Mais non, mais les gestes sont. C'est très précis.
Mais
parce que chaque centimètre carré.
C'est médicalement prouvé.
Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Chaque centimètre carré du visage est massé, c'est étiré. Et puis, Delphine, elle adapte d'ailleurs chaque soin aux fonctions, en fonction des besoins des clientes. Si vous voulez un effet anti-ride, notamment sur le front, elle va travailler sur le front spécifiquement.
Et le sillon nasogénien, il est où
c'est... Alors, c'est entre le nez et ce qui descend le long de votre bouche, en fait.
Ah, d'accord.
Voilà, qui a tendance à se creuser avec l'âge. Et donc, au bout des 50 minutes de massage, j'ai demandé à Christine comment elle se sentait.
Ça n'a rien à voir avec un soin esthétique classique où on vient vous mettre de la crème, vous faire des gommages, vous laisser un masque. Là, on sent vraiment que c'est pendant 50 minutes du travail des mains sur l'ensemble du visage, de bas en haut, de haut en bas, en intrabuccal, vu que j'ai eu la chance d'avoir un massage intrabuccal. Et c'est vraiment, oui, une sensation de détente, de lâcher prise. Et à la fois, on est concentré quand même sur les mouvements. On se laisse porter.
Alors, après avoir assisté à cette séance, Delphine Langlois m'a proposé de le tester. J'ai accepté. Et je dois dire que c'est assez bluffant parce que les rides du front sont estompées très rapidement et on a un meilleur teint. Et tout ça, sans aucune cosmétique. C'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que c'est des nouvelles techniques qui n'utilisent pas de produits qu'on essaie de vous refourguer à la fin de la séance. Il y a simplement une huile de massage, évidemment, pour effectuer le soin.
Olivier, et donc, c'est proche du Kobido, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Vous connaissez
ça
le
fait
Kobido ?
Partie du Kobido.
Alors, j'ai lu un super papier dans la presse. Il y a quelques mois, alors j'ai cherché massage Kobido sur internet, j'ai trouvé pas loin de chez moi, et là, comment vous dire ? Et bout d'une heure, j'étais grasse, que j'en pouvais plus. Et oui, je venais de laver mes cheveux, les cheveux étaient dégueux, j'avais la même tronche de travers qu'en entrant, et peut-être en pire qu'en entrant finalement.
Et vous savez pourquoi ?
Mes muscles, je vois pas. Je pense que le mec, il a vu Kobido, c'est un monsieur.
Et ben, je vais vous expliquer pourquoi.
Il a dit, attends, je vais appuyer sur trois trucs
c'est
et
ça.
Puis je.
Exactement,
et
mais c'est
ce
extrêmement important ce que vous dites. C'est extrêmement important parce qu'en fait, les personnes qui font ces techniques-là ne sont pas formées aujourd'hui en France. Elles sont que 6 sur la région Paris-Île-de-France et il y en a quelques-unes dans les grandes villes en France. Et c'est pour cette raison que Delphine Langlois, parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il n'y a pas assez de professionnels, crée une école de formation l'année prochaine en France, à Paris pour l'instant. Et ça se développera ensuite en province.
Là. Non, mais là, vous avez testé, on peut avoir confiance.
On peut avoir, si vous avez confiance en Eva, moi, allez-y d'abord, Olivia, j'irai après. Hein, on verra comment,
et je reviens vous en parler.
On verra comment vous ressortir. Ça coûte combien, ça, Eva ?
Alors, c'est assez cher, parce que c'est à partir de 70 euros la demi-heure, ce qui est un peu plus élevé qu'un soin esthétique.
Et ça dure longtemps ?
Bah, vous pouvez aller jusqu'à 1h15.
Non, l'effet.
Ah, l'effet, bah, oui. Non. Parce qu'en plus, ça vous apprend à vous automasser, donc vous pouvez prolonger les effets du soin après chez vous.
Jamais, bien sûr.
Franchement, je le fais. Oui. Franchement. Oui, c'est facile.
Quel mytho, c'était
là. Non, merci.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
La comédie culte de Patrice Lecomte. Les Bronzés font du ski s'offre un anniversaire collecteur via un coffret dans lequel on retrouve en plus des films, des souvenirs, des bonus, un supplément d'une masterclass inédite. L'occasion d'en parler dans l'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël.
Patrice Lecomte, ensemble, on fête les 40 ans des Bronzés font du ski. Un coffret absolument collector. L'expression est souvent galvaudée. Hein. Tout est collector aujourd'hui, mais enfin là, c'est collector parce qu'il y a le film a été remasterisé, comme vous nous l'avez expliqué, et en plus, il y a plein de bonus dedans. Est-ce que ce film culte a toujours été pour vous une bonne étoile, Patrice Lecomte, ou bien, à certains moments de votre carrière, l'étiquette des Bronzés a pu vous peser pour monter d'autres films.
Non, sincèrement, non. Il m'est arrivé assez souvent, quand je me suis mis à faire des films qui n'étaient pas directement des comédies, il m'est arrivé de rencontrer les journalistes qui me disaient « Bon, alors les bronzés, on oublie. » J'ai dit « Mais attends, vous me plaisantez, on oublie. » C'était des films extrêmement importants, ça a changé ma vie. Le premier film qui s'appelait « Les WC de fermer de l'intérieur » et Coluche et Jean Rochefort avait été un bide assez retentissant.
Les WC étaient fermés de l'intérieur ?
Ouais. Moi, j'ai adoré ce film.
Oui, mais ça aussi, c'est mythique. Rétrospectivement, à l'époque, ça n'avait pas marché, c'est ça ?
Non, du tout. Maintenant, le film est pareil du charme du démodage, on peut dire. Et donc, il y a prescription, ça va. Mais mon deuxième film, c'était Les Bronzés, puis Les Bronzés font du ski. Et c'est vrai que ces films-là ont changé ma vie. Quoi.
Alors, justement, c'était le début de votre carrière de réalisateur, Les Bronzés. Et c'était pas vous qui deviez réaliser à la base. En tout cas, ça aurait pu ne pas être vous. Disons que vous n'étiez pas.
Oui, c'est-à-dire que je m'entendais bien avec les gens du Splendide qui étaient devenus des amis, qui eux avaient eu le bon goût d'aimer mon premier film. On se voyait, on sympathisait, etc. Et quand il a été question, quand Yves Rousséroir, le producteur des Bronzés, leur a dit. On va adapter, ça s'appelait Amour, coquillage et crustacé, la pièce qui est devenue Les Bronzés. Et Yves Rousséroir, le producteur, voulait leur mettre dans les pattes un réalisateur confirmé, quelqu'un qui a de la bouteille, Molinaro, Zidi. Et il y a même eu Jean-Jacques Hano, je crois, sur le coup. Au Splendide, ils ont été extra. Je leur dois beaucoup, beaucoup, parce qu'ils ont dit non, nous, on veut travailler avec un type qui ne va pas prendre possession du film, un type avec qui on s'entend bien, un type de la même génération, un type qui rit des mêmes choses que nous. Et on va faire le film avec Patrice. Et donc, ils ont insisté. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé aux commandes.
Heureusement. Eva Rock.
Est-ce que c'est vrai que pour les dialogues, chacun avait son personnage et développait les propres dialogues de son personnage? Et il y avait des sortes de séances communes entre tous.
Le film a été. Enfin, l'adaptation de Amour, coquillage et crustacé a été un travail collectif. Absolument. Donc, ils étaient six. Moi, j'étais le septième, comme les nains. Ou les merveilles du monde. mieux. Ou les péchés capitaux, parfois. Enfin, bref, sept, il y en a plein. Et les mercenaires.
Et c'est pareil.
Enfin, 7, il y a plein de 7. Hein. Et on disait quoi avant ?
Alors,
effectivement, chacun n'écrivait pas son personnage, mais il le nourrissait, il l'alimentait, mais avec l'accord des autres. C'est-à-dire que s'il y avait une vanne qui ne plaisait pas aux autres, on la virait. Donc c'est très collectif. Quoi.
Alors,
c'est quand même 6 ans d'écriture. Hein.
Ah oui, c'est ça. Mais j'allais vous demander, mais ça a pris combien de temps ? Parce que pour que tout le monde s'entende.
Mais ce qui n'a pas pris trop de temps, c'est que les personnages étaient déjà dessinés, ils existaient. Donc il n'y avait plus qu'à organiser tout ça.
Le mot dans Les Bronzés 1, le premier Bronzé, le mot clubman n'est jamais cité, mais eux, ils s'inspirent beaucoup de l'ambiance club du clubman, où la troupe du Splendide se rendait au clubman pour faire des. Je crois qu'ils avaient un deal, ils faisaient quelques spectacles et ils avaient une semaine de vacances gratuite, c'est ça à l'époque ?
Oui, c'est ça, ils allaient faire les spectacles club et en échange de billets, logements, une semaine de vacances. Ils ont rodé plein de spectacles à eux là-bas.
Et puis comme ça, ils ont pu sentir l'ambiance et nous faire profiter de tout ça ensuite.
Juste petite parenthèse, ce qui est poilant, c'est qu'eux, ils connaissent. C'est le club par cœur. C'est comme ça qu'ils ont écrit Amour, coquillage et crustacé. Et quand ils m'ont proposé le film, j'ai dit oui, c'est super, mais je ne leur ai jamais dit que j'avais jamais foutu les. À l'époque, j'avais jamais mis les pieds au club. Donc quand on parlait de Géo, GM, Question Café, Spectacle Club, je disais ouais, c'est bien. Ouais.
C'est super, ouais.
Mais j'avais peur de me faire virer, en fait. Si je leur dis que je suis.
Ils vont appeler Zidi.
Ils vont appeler Zidi.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur.
Patrice Lecomte, le thème du quiz qui vous oppose à Eva est en rapport direct, évidemment, avec le coffret DVD qui sort la semaine prochaine sur les bronzés fonds du ski. C'est un quiz sur le ski. Une bonne réponse vaut un point. Patrice Lecomte, il existe un record d'athlétisme de 100 en hauteur, mais avec des chaussures de ski. Vrai ou faux ?
Et ça, c'est pour moi. C'est faux.
C'est faux, bien vu. Par contre, ça aurait pu être tout à fait vrai puisque le record du marathon en chaussures de ski existe.
Ah bon ?
Le marathon en chaussures de ski, 5h30, c'est le record. Hein, le temps normal, c'est 2h01, comme quoi ça va moins vite avec des chaussures de ski. Eva Rock, la fausse neige, c'est de la vraie neige. Par contre, il n'y a pas de flocons. Vrai ou faux ? Réfléchissez bien.
Alors ça... Attendez, pourquoi il n'y aurait pas de flocons Bah non, il y a des flocons. Ouais.
D'accord. Eh bien non, c'est vrai.
Ah bon ?
On résume, la neige artificielle est composée de la même matière que la neige naturelle, mais il n'y a pas de flocons pour la neige artificielle, à savoir les jolies petites formes de cristaux de glace qui se forment.
Bah oui, pourquoi ?
Vous savez, il n'y en a pas. On ne peut pas le reproduire, parce que chaque flocon est unique dans la nature.
Vous êtes sûr de ça ?
Écoutez...
D'accord, je ne me sens pas serein sur cette réponse.
Je suis confiant. D'accord. Sébastien Bordenave qui prépare ce petit quiz pour moi. Eva Rock, Patrice Lecomte, on rejoue ensemble tous les deux. À Pitea, au nord-ouest de la Suède, il fait souvent moins 60 degrés. Le soleil ne brille que 4 heures par jour, mais les pistes de ski ont quelque chose de particulier. Quoi donc ? 3 propositions. 1. il y a des pistes naturistes et des chalets échangistes. 2, il y a une piste, visiblement à Nice, va en vacances là-bas. 2, il y a une piste que l'on peut descendre avec un casque virtuel pour avoir l'impression de skier sur de la lave. Ou 3, il y a un McDo. À Pitea, au nord-ouest de la Suède.
Moi, je pense, parce que je trouve qu'ils sont capables de ça, je pense que c'est la première réponse.
Des pistes naturistes ?
Ouais.
Alice fait oui de la tête.
Eva. Et moi, j'aime bien l'histoire du casque virtuel, là.
Il aime bien le casque virtuel, ouais, moi. Ouais. Ouais. Bah vous avez faux. Et Anissé et Patrice pourraient partir peut-être pour une petite piste noire naturiste, si ça existait, car c'est faux. Ah, il y a simplement un McDo, le Maxki, le seul Maxki qui existe. Il peut recevoir 140 personnes à l'intérieur et vous pouvez également emporter une sorte de McDrive, mais en scooter des neiges.
On ne peut pas dire que la première réponse était quand même plus sympa et qu'on
l'apprend. Oui, mais il faudrait qu'il le crée.
Moins 60 nus.
Ouais.
Oui, moins 60 nus, bah, il faut du courage. Mais
ah, oui, du courage.
Arrêtez, je vais visualiser. Patrice Lecomte, en France, une boisson sans alcool est taxée à 5,5%. L'alcool a une TVA à 20%. Mais dans les départements ayant une frontière avec un pays étranger où on peut skier, le vin chaud est taxé à 25%. Vrai ou faux ?
Le vin chaud ?
Le vin chaud.
Mais alors, à combien il taxe le planter du bâton ?
Faites le planter, bâton.
Le vin chaud à 25%, non, c'est faux.
C'est faux, mais voilà. Il déjoue tous les pièges. Par contre, il existe une taxe ridicule, une taxe ski de fond prélevée par les collectivités territoriales. Elle rapporte environ 11 millions par an. Elle finance notamment l'entretien des pistes. Ça, vous ne le saviez pas, Eva.
Non.
Eva Rock, attention, c'est la question qui vous permet peut-être de recoller
non,
ou
pas.
Non,
j'ai déjà perdu.
Non, vous avez déjà perdu.
Oui.
Quand Patrice Lecomte a réalisé Les Bronzés font du ski, il a coupé au montage plus de 30 minutes, mais il ne les a jamais gardées. Du coup, ces scènes sont définitivement perdues. Vrai ou faux?
Ah, je dirais que c'est vrai.
Ben oui, c'est vrai.
C'est vrai, Eva.
C'est vrai.
Le premier montage faisait 2h10. Hein. Comment c'est possible, Patrice, d'avoir jeté les rushs?
Mais non, on ne les a pas jetés. C'est-à-dire qu'on a monté le film, on a coupé pas mal parce qu'on avait trop écrit, parce qu'on se disait on verra bien plus tard. Et en fait, les rushs, les doubles, les premiers montages, les scènes coupées sont gardées. Pendant un certain temps, c'était support film à l'époque, sont gardés pendant un certain temps au laboratoire. Et au bout d'un temps X, le laboratoire prévient la production en disant on va mettre ça au pilon, est-ce que vous voulez garder ça? Mais enfin, c'est très volumineux.
Mais c'était combien de temps après?
20 ans après, 15 ans, 10 ans après.
Et 10 ans après, vous n'êtes pas dit on va utiliser ces...
Non, le producteur a laissé mettre ça au pilon, mais à ce moment-là, on n'avait pas encore la notion des bonus et tout ça,
oui,
des director's cut et compagnie. Donc, il y avait des bonnes scènes.
Vous n'aviez pas la notion des bonus, mais là, en regardant les bonus justement du coffret, il y a quand même pas mal de trucs que vous avez pensé à l'époque même de la sortie du film. Il y avait plein de teasers en fait, où chaque membre du Splendid venait face à la caméra faire un petit speech.
Oui, c'était
très moderne ça à l'époque.
C'était le film annonce était constitué de ça. La bande annonce du film, on avait fait ça pour les Bronzés numéro 1. Les Bronzés aisés, et chaque personnage face caméra dit pourquoi il est là à la neige, comme il disait pourquoi il était au club.
Les Bronzés 3, il y a eu Les Bronzés 3 il y a quelques années, qui a fait en fait finalement beaucoup plus d'entrées que Les Bronzés en salle. Ça a été un carton total. Le film n'a pas eu des très bonnes critiques en revanche. Ça, c'est quelque chose qui vous a blessé, vous avez fait le film que vous vouliez, vous étiez un peu déçu vous-même?
Non, on est conscient je suis tout à fait conscient des limites du film, de ce que... Mais bon...
Il y avait une telle attente, quoi. C'était...
Oui, mais le film... Enfin, je vais me la péter 2 secondes, après je promets, j'arrête. Mais le film a fait près de 11 millions d'entrées.
Ouais.
Et 11 millions d'entrées, c'est quand même plus valorisant que des... Enfin, que des critiques pas bonnes ou des gens déçus. Mais si le film avait vraiment été naze, ça serait su très vite.
Oui, le bouche à oreille n'aurait pas fonctionné du tout. Ça serait possible, les Bronzés 4, c'est quelque chose qui est en projet ou pas ?
Quand on a fait le 1, on a dit jamais le 2.
Donc peut-être le 4
un jour. Le 2, jamais le 3. Donc comment dire, jamais le 4.
Tous entre amis, on se réunit chaque année pour regarder les Bronzés font du ski dans chaque foyer de France, peut-être, j'imagine. Est-ce que l'équipe du Splendid, aujourd'hui, ils ont tous eu des carrières tellement incroyables, chacun de leur côté, est-ce qu'ils sont toujours potes aujourd'hui? Est-ce qu'eux, ils se retrouvent pour voir les Bronzés ensemble?
Ah non, ça, je crois pas qu'ils fassent des soirées karaoké Bronzés ensemble sur le même canapé, mais le titre du numéro 3, c'était Amis pour la vie, et c'est vrai, c'est pas frelaté du tout.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Il est 17h30, c'est le rendez-vous qui met de bonne humeur. L'équipe est sauvage de Mathieu Noël, toujours bien entourée, puisqu'il y a Eva Rock, nos journalistes lancés depuis la rentrée dans une compétition. Le but étant, je le rappelle, de subjuguer l'invité dont le vote compte triple. En l'occurrence, ici, tiens, l'auteur de Une Minute Antique, Christophe Onodibio, qui est aussi le directeur adjoint de la rédaction du Point. Mais revenons à la compétition avec Jérôme Lacroix.
précise qu'Europe 1 fait de mieux en termes de sportif. Un journaliste méticuleux, un père de famille investi, un collègue fiable, un amant inégal.
Ça dépend des jours. Parfois c'est trop court, parfois c'est trop long. Non, vraiment, c'est...
Jérôme Lacroix, cet après-midi, constatant que le sport et le pognon étaient deux choses qui passionnent les Français, vous avez décidé de maximiser vos chances en nous parlant du pognon dans le sport.
Voilà, je me permets modestement de régler mon pas sur votre pas, Christophe Onodibio, voir le présent de loin pour mieux le comprendre. Alors moi aussi, je vous emmène au loin pour des odyssées modernes auprès des marins de compétition, ces skippers, hein, pour la plupart. On en a rencontré ici à François Gabart, qui est venu il n'y a pas longtemps, des discrets, des taiseux, sauf ceux-là, le mois dernier.
C'est Leonardo DiCaprio en Titanic.
Séquence...
Bah oui, quand il est avec Kate sur le pont.
Là, ça ne coulait pas, bien au contraire. Séquence hystérie, on peut le dire, pour cet équipage australien, parce que... C'est le million de dollars, baby. Ils viennent de gagner. Ils viennent de gagner un million de dollars à se partager en remportant une course récemment créée par un multimilliardaire américain. Un million de dollars. Donc, sauf que ça, c'est la voile qui cache l'océan parce qu'en vrai, bah, la grande majorité des skippers est loin de flotter sur l'or. Alors, comment gagnent-ils de l'argent ? Chaque course auquel ils participent possède ce qu'on appelle dans le jargon des prize money, des dotations. Bah alors prenons, par exemple, vous en parliez, la Transat Jacques Vabre. C'est en ce moment. Donc, ils sont partis dimanche du Havre. Il faut rallier Salvador de Bahia au Brésil, 8000 km. Bon, alors j'ai appelé la course hier qui m'a transmis les dotations. Les récompenses vont de 4100 euros à 35 000 euros selon les catégories de bateaux. Ça, c'est pour les vainqueurs. Ensuite, c'est dégressif selon si vous avez deuxième.
Quand on imagine la préparation du driver, c'est pas énorme. Alors, si attendez, vous le rapportez sur...
les plus tardifs, ceux qui arrivent dans les derniers, gagneront des clopinettes. Hein. Et en plus, c'est une transat en double. Il faut donc partager la somme en deux. Et en plus, il faut payer d'abord des frais d'inscription entre 5 000 et 12 000 euros hors taxes par bateau. Alors, prenons l'exemple, comme ça on va bien comprendre, d'un binôme de la catégorie multi-50 à des petits multicoques. La victoire se joue environ en 10 jours de navigation, donc au grand large. Dotation des vainqueurs, 4100 euros. Divisé par 2, 2050, hein, on est d'accord. Frais d'inscription de la catégorie, 6000 euros.
Donc avec il faut payer pour participer.
Avec une ristourne de 10% si l'équipage s'était inscrit avant le 1er mars.
Mais alors, ils ne vivent pas du tout de leur métier, les skippers, en fait ?
Non, pour certains. En moyenne, les revenus sont estimés entre 2600 et 3100 euros nets, revenus mensuels. Alors, c'est honnête, hein, mais pour en arriver là, les performances en mer ne suffisent pas du tout. Alors, comment faire pour tenter de vivre de cette passion-là pour eux ? Les droits télé, bah vous oubliez, il n'y en a pas. Les skippers, ils sont aujourd'hui des VRP. Ils devraient être diplômés d'école de commerce, en fait. Quand ils ne sont pas en mer, c'est la course aux sponsors qu'ils démarchent eux-mêmes pour la très grande majorité. Et une fois qu'ils ont trouvé, il n'y a pas de CDI, c'est très, 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 très rare. Alors, ils font des conférences, des interventions en entreprise. C'est payé 10 à 12 000 euros la prestation pour les plus connus. Ces femmes et ces hommes, ils se définissent eux-mêmes comme des intermittents de la mer.
Et c'est quoi l'avenir des skippers ?
Alors, il y a 30 ans, les débuts, c'était 5 000 francs en liquide, une bonne bière et un blouson, et c'était réglé. Il y a 15 ans, Michel Desjoyeux, donc on parle d'un immense nom, il arrivait péniblement à 10 000 euros par mois. Donc, évidemment, c'est très honnête. Mais dans ça, il y a le salaire du sponsor.
Mais surtout, c'était c'est un nom, c'est une célébrité.
Oui, c'est ça, c'est une immense star. Et là, il y a le salaire du sponsor, des primes éventuelles, plus des opérations commerciales. Ça évolue. Aujourd'hui, très lentement, un seul exemple, hein, pour vous donner une idée, des dotations du prochain grand rendez-vous, le Vendée Globe, l'année prochaine, c'est le grand tour du monde. 200 000 euros promis aux vainqueurs. Il y a 4 ans, l'édition précédente, c'était 160 000 euros. Voilà, donc ça évolue quand même dans le bon sens, mais très lentement.
Christophe Onodibio, vous êtes natif du Havre,
oui,
si je ne m'abuse.
Cette émission
vous,
est magnifique.
En
plus, c'est le café. Et quand j'étais petit, alors c'est terminé maintenant, je me souviens encore du parfum du café qui était... torréfié justement sur la route en arrivant au Havre. Et le Havre, en fait, les minutes antiques, elles ont commencé là. Parce qu'en fait, c'est au Havre que j'ai appris le grec et le latin. Ma professeure de grec était au Havre. Et c'est au Havre que j'ai rêvé de la Méditerranée.
Oui. Avec
le ciel normand qui n'était pas très méditerranéen. Mais en tout cas, il y avait quand même ce mouvement... odysséen, les grands départs des marins. Moi, j'avais des gens de ma famille qui travaillaient sur le France, hein, qui était aussi le grand paquebot. Donc, c'est une ville qui est tournée vers l'horizon et qui, au fond, est assez grecque.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et où on apprend tout en se divertissant avec Mathieu Noël. C'est comme ça tous les après-midi sur Europe 1. Les journalistes de la station nous offrent leurs meilleurs sujets pour nous captiver, nous, mais aussi les invités. Ici, en l'occurrence, Stéphane Guillon, qui était venu cette semaine nous parler de son spectacle Prolongation. Et il est sur le point de découvrir le sujet d'Alain Sirou.
Alain, je vous pose une question frontale. Vous dirigez la revue Ciel et Espace. Qu'est-ce que vous y connaissez aux horloges ?
Ah ben, le temps et l'espace sont intimement liés. Depuis qu'Albert Einstein a dit l'espace-temps, c'est quelque chose qui est de la substance. Si, c'est de la substance.
Ah, bon, d'accord.
Ça va ensemble. Non, les horloges, vous savez ce que ça veut dire, horloge ?
Non.
La racine horloge, ça vient de deux verbes latins, orare et leggere. Orare, c'est prier, et leggere, c'est lire.
Magnifique.
Ah bah oui, j'ai un silence. Hein.
Ah bah oui, bah,
ça veut dire que l'horloge, telle qu'on la connaît, a été inventée par les moines pour justement qu'on comprenne à l'intérieur des monastères quelle était l'heure de la prière, le moment de la prière. Donc notre histoire au temps est une histoire extrêmement ancienne où pendant très longtemps, c'était le soleil, la lune qui donnait rendez-vous aux gens. Bon, on avait des gnomons, on regardait les cadrans solaires, ça donnait l'heure, etc. Jusqu'à ce qu'arrive finalement le moment des marchands, le moment des villes, le moment de l'échange, le moment où on avait besoin de se coordonner pour des échanges. Oui, c'est ça, c'est le temps du commerce en quelque sorte. Et le temps du commerce a inventé les voyages. Les voyages, c'est les bateaux. Les bateaux, bah, c'est se positionner, c'est se donner rendez-vous, latitude, longitude. La longitude, c'est une affaire de temps. Donc, on transporte les premières machines qui vont compter le temps. Et puis, c'est la montre qui apparaît au 15e siècle. Enfin, je vous fais une histoire rapide du temps, mais c'est ça. Quand arrive le chemin de fer, c'est la révolution. Parce que le chemin de fer doit coordonner tout le monde. Vous comprenez bien que quand il est midi à Strasbourg, il est 11h10 à Brest au même moment. On disait que chacun voyait midi à sa porte. Donc on va créer un organisme qui va coordonner le temps et faire ce qu'on appelle le temps universel. Et à ce moment-là, tout le monde s'est bien adopté le même temps, celui
c'est
de Greenwich.
GMT, Global, je ne sais pas quoi.
Greenwich Meridian Time. Greenwich Meridian Time. Et à ce moment-là, eh ben, les astronomes qui ont gardé le temps, parce que c'est eux qui donnaient l'information sur le temps, le soleil, la lune, etc., un peu débordés par les appels, inventent l'horloge parlante. Je vous propose d'écouter le premier son de l'horloge parlante à Paris.
Au quatrième top, il sera exactement 19h59.
On est en 1933. C'est Marcel Laporte, speaker radio.
Je l'avais reconnu, Marcel.
On l'appelait Radiolo. On l'appelait Radiolo qui donne le temps. Bref, c'est une révolution. Et la révolution se double d'une seconde révolution qui est l'horloge atomique. Et l'horloge atomique, ben, on perd la substance, je veux dire, du clic, du clac, du ressort, etc. Oui.
Attendez, Alain, c'est juste pour les profanes, c'est quoi une horloge atomique ? En quoi elle est atomique ?
Alors, l'horloge atomique, en fait, on regarde l'oscillation d'un atome qui est l'atome de césium-133.
Oui, j'ai
merci. Moi, j'ai compris. Là.
Ça veut dire...
C'est bon, question suivante.
Oui, question suivante, parce que là, on a tous compris.
Ça veut dire une extrême précision. Donc, ça veut dire qu'en continu, on cherche à perfectionner le temps et on a de plus en plus de systèmes.
Alain, vous êtes excité.
Pour
Alain, moi aussi, je suis excité.
Oui.
Mais qui corrige ? C'est-à-dire que si on corrige à la 18e décimale, c'est un ordinateur qui le fait. Qui corrige cet ordinateur ?
Alors, enfin, ce sont en fait le bureau du temps, en quelque sorte.
Le bureau du
comme
temps
ça, est installé.
Oui, bonjour, ici le bureau du temps.
Mais oui, ça s'appelle le CIRT. C'est installé à l'Observatoire de Paris. Et ce sont des horloges atomiques. Il y en a plusieurs, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont, alors c'est compliqué, on appelle ça des fontaines atomiques parce qu'elles sont refroidies à moins 273 degrés, etc. Mais en continu, on essaie d'uniformiser ce temps pour avoir le temps universel coordonné avec une précision diabolique qui fait que tous les échanges, l'énergie, les communications, la banque, etc., tout ça se parle au même moment sur la Terre entière et soit corrigé de toutes les erreurs de la relativité générale avec une précision qu'on veut aujourd'hui diabolique.
Bravo Alain Sirou.
Bravo.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
En parlant d'horloge, de montre, ben sachez qu'il est 17h41, vous écoutez Europe 1. Nous sommes avec Mathieu Noël, comme chaque après-midi, pour 2 heures de douce folie. Et comme toute l'équipe est aussi très gourmande, eh bien Olivier Pouls participe à l'aventure. Vous écoutez L'équipe est sauvage.
Il est donc en ligne depuis Bordeaux avec nous, car il tenait à nous livrer la recette de la fougne. Et la fougne, c'est d'abord du pain.
Bah, félicitations, elles sont bien rondes vos miches. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne.
La fougne.
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là ?
Ah, bah ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Alors, on fait macérer ça avec du gras et puis l'alcool de bois pendant 2-3 saisons.
Moi, j'ai petit, je devenirai un vrai montagnard.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour toute l'équipe, bonjour les amis. Alors c'est vrai que je n'ai pas pu résister à vous préparer une bonne fougue, ou plutôt une bonne pétafine, parce que le nom exact de cette recette qui est authentique, qui existe, qui est originaire du Dauphiné, c'est la pétafine.
C'est génial comme nom, la pétafine. Alors, c'est fait comment ? Il n'y a pas d'asticot dedans dans cette version, rassurez-nous quand même.
Non, alors, la recette telle qu'elle est donnée dans les bronzés est très proche, en fait, de la recette originale. C'est effectivement des restes de fromage. Alors, on y va, on vide le frigo, tout le plateau de fromage du week-end, tout ce qu'on n'a pas mangé peut y passer. Des fromages de chèvre, des fromages de vache, des fromages de brebis. On peut même rajouter des fromages à pâte molle, des fromages à pâte dure. Alors, l'astuce pour les fromages à pâte dure, c'est de les faire ramollir dans du lait. Mmh. On malaxe tout ça. C'est-à-dire qu'on pétafine le tout. On
fait une espèce c'est un verbe, pétafiner.
Oh, oui, c'est un verbe, pétafiner.
Il y a Patrice Lecomte qui se sent pas bien.
Le peignoir.
Et ensuite, on rajoute effectivement, alors pas de l'alcool de bois parce que ça rend aveugle, mais on rajoute un peu d'eau de vie ou éventuellement un peu de vin blanc, de l'ail haché. Alors le gras, on peut rajouter un peu d'huile. Certains rajoutent des herbes. Et puis, il y a deux options. La première consiste à le manger tout de suite, c'est-à-dire manger une pétafine fraîche. Et l'autre option, c'est un peu comme dans les bronzés, c'est de la faire maturer en quelque sorte, donc de la garder, alors pas plusieurs saisons, il ne faut pas exagérer, mais la garder quelques jours ou quelques semaines. Et si vous voulez, les amis, je me fais fort de vous préparer une pétafine et d'ici 2-3 semaines, je viens vous la faire goûter à l'étalée.
Et c'est Eva Rock qui goûtera en premier. Et la pétafine, c'est quelle région, vous avez dit, Olivier ?
Alors, c'est une recette du Dauphiné qui a servi de base, évidemment, au moment de l'écriture du scénario. Patrice Lecomte peut peut-être nous le confirmer.
Patrice Lecomte, comment vous avez dit cette recette ?
Sincèrement, je crois que c'est une inventée de toutes pièces. Ouais.
Et pourquoi pas ? Ça pourrait être inventé de toutes pièces et finalement, ça se recoupe. Fromage, ail, ça ressemble un peu à la croûte au fromage qu'on mange chez moi en Suisse. Hein. Croûte au fromage, pain, vin blanc et fromage dessus.
C'est la version light. Quand
c'est
même.
Pas un mélange de 15 fromages.
Mais pourquoi pas, c'est très bon un mélange de 15 fromages. Une pizza 4 fromages, c'est bon, pourquoi pas un mélange de 15 fromages. Moi ça ne me choque pas, je vais vous dire, moi je serais heureux de goûter la pétafine, Olivier.
Eh bien, je vous prépare une pétafine et si Patrice Lecomte veut la goûter authentique, je l'invite aussi, d'ici une quinzaine de jours on la goûte, c'est promis.
Merci Olivier Pouls, qu'on se trouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Pratiquement 17h50, des entretiens, des infos, des quiz, c'est ça l'équipe est sauvage. On retrouve donc Mathieu Noël, Eva Rock et son invité, ici le directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Onodibio, qui publie aux éditions de l'Observatoire la Minute Antique. Parfois, on voit mieux l'actualité quand on la regarde de très loin, dit-il.
Quel est le premier mythe qui vous a fasciné ? Parce qu'on a compris que vous étiez un amoureux de la Grèce antique. Quand vous étiez enfant, probablement.
Le premier mythe, je dirais que c'est Persée et la Gorgone. C'est-à-dire ce jeune homme qui sort à peine de des jupes de sa maman, sauf que je cherchais la jupe dans l'Antiquité, dans pas vraiment jupe.
Qui s'en va
tuer cette Gorgone. En fait, ce qui m'avait fasciné, c'est que vous savez que quand on regarde la Gorgone, elle vous pétrifie. Donc il arrive à la tuer. Mais surtout, ce qui m'avait le plus plu, c'est que quand il repart avec la tête de la Gorgone qui goûte de sang, le sang tombe dans la mer et c'est ça qui donne le corail, puisque ça se pétrifie. Et là, on retrouve le plongeur. Non, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Mais il y en a plein. Je pense que vraiment le plus fondateur, comme pour tous les enfants, c'est l'Odyssée, d'ailleurs, avant l'Iliade. C'est-à-dire cette histoire d'un homme qui veut rentrer chez lui et qui n'y arrive pas. Alors, depuis que j'ai grandi, j'ai relu l'Odyssée et je découvre qu'en fait, Ulysse n'est pas du tout ce type qui veut retourner vers sa femme. Il passe quand même 7 ans chez une autre femme.
C'est vrai.
Alors, c'est vrai qu'elle s'appelle Calypso, qu'elle est sublime, qu'elle lui offre l'immortalité. 1 an chez Circé, la magicienne, dans le lit de Circé.
Ah, ça
et c'est dit dans le texte, ils font l'amour, etc. Alors, on ne nous donne jamais ces passages-là à lire,
évidemment. Oui, il n'y a
évidemment.
Jamais de détails croustillants, malheureusement.
Et c'est ça aussi. En fait, c'est un monde, le monde antique, qui n'est pas du tout prude.
Ah non.
Qui n'est pas du tout prude. Où on
c'est
parle
avant le monde judéo-chrétien.
Exactement. De sexualité tout le temps, de liberté tout le temps, où la religion n'est pas un problème. En fait, toutes les religions sont absorbées.
Sont acceptées, oui.
Une ville comme Palmyre, par exemple, qui était une ville gréco-latine, hein, finalement, aujourd'hui en Syrie, c'est drôle quand on voit le changement, accueillait tous les cultes. C'est-à-dire l'Occident, l'Orient, tout ça se mariait. Ils faisaient des unions de dieux. Baal, le dieu oriental, il disait en fait, c'est un peu comme notre Jupiter, donc on va l'appeler Jupiter Baal, et c'est très bien comme ça. Et jamais on a tué au nom de la religion. Il y avait des conflits, mais jamais il y avait des guerres. Mais en tout cas, sur le plan de la religion, il n'y avait pas de guerre de religion, et en fait, on croyait à ce qu'on voulait, ça posait absolument aucun problème.
Nous passons un merveilleux moment avec Christophe Onodibio. Alors à ce stade, Eva Rock, vous dites peut-être que j'ai oublié le quiz. Pas du tout.
Ah merde.
Effectivement, ouais. Christophe Onodibio, tous les jours un quiz thématisé. On pose notre invité à Eva. Le sujet du jour sera la Grèce. Mythologique ou pas, d'ailleurs, c'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point. Christophe Onodibio. Un zytologue est un spécialiste de la décomposition, zytos signifiant détritus. Vrai ou faux?
Ne me regardez pas parce que
vous savez
je
ne
sais
la
pas
réponse.
Déjà mes réponses à moi, alors
non, c'est zytologue, je sais pas. Non.
Et c'est... Bah, donnez une réponse.
Bah, faux.
Ouais. Faux. Zytos. Il est vraiment fort, il est vraiment spécialiste de la Grèce antique. Voilà. Zytos en grec, c'est l'orge. Le zytologue est à la bière, ce qu'un œnologue est au vin. Spécialiste de la bière.
Ah, mais ça, j'aurais dû le savoir. Pourquoi
ah oui, ça, pourtant, c'était plutôt votre domaine de compétence. Nana Mouskouri.
Ah non.
Bon, le rapport avec la Grèce est fin. Hein. Finement pensé ce quiz. Et Nana Mouskouri a chanté du Amy Winehouse. Vrai ou faux?
Ah, je crois que c'est vrai. Non, je crois que c'est vrai.
Réfléchissez bien en termes de temporalité, oui,
ouais,
c'est vrai.
Je crois que c'est vrai.
Oui, c'est vrai, j'ai essayé de piéger, mais non, c'est
et
vrai.
Nana, vous savez qui s'appelle Nana, c'est le diminutif d'Athéna. En fait, on devrait dire Athéna Mouskouri.
Mouskouri.
Oui,
ah,
exactement.
Ça, c'est plus
joli, en fait, quand
ouais.
vous allez en Grèce aujourd'hui, les filles s'appellent Déméter, donc ça vient d'Imi. D'Imi, c'est Déméter.
Dimi, d'accord.
Alors, Zeus, non, mais.
Et Démis Roussos.
Dita. Aphrodite,
Dita,
voilà, Dita Fontis, ouais. Aphrodite Fontis, ça lui va bien.
Ça lui va parfaitement.
Hein. Et Nana, c'est le diminutif d'Athéna.
Eh ben, si voilà. je la reçois, je l'appellerai Athéna.
Ouais, c'est bien.
Elle m'a permis
plaisir,
de gagner un point.
Et elle vous a permis de gagner un point, qu'elle a effectivement repris Love is a Losing Game.
A five story fire as you came.
Non, mais on se moque. On se moque, mais elle a une très très belle voix quand même.
Ah ouais.
Mais oui, mais je ne me moque pas, Eva. Il n'y a que vous qui vous moquez.
Si,
c'est
je...
pas du tout mon fond de commerce, Eva,
oui, c'est
de moquer
vrai,
des
pardon.
Gens. C'était en 2018, elle a aussi repris du Bryan Adams, Hey Jude des Beatles et aussi du Dalida, sacré Athéna. Eva Rock, Christophe Onodibio, vous jouez ensemble. En 1911, le Britannique George Levick part en expédition en Antarctique. À son retour, personne ne comprend pourquoi il a rédigé toutes ses notes en grec. Pourquoi, d'après vous? 1. Il est parti avec son amant grec, également scientifique, mais il ne voulait pas que ça se sache. 2. Ça. Horrifié par la sexualité des manchots, il se dit que ses travaux resteront confidentiels s'il les écrit en grec. Ou 3, victime d'un choc avec un canot de sauvetage, il n'arrivait plus à rédiger en anglais mais que en grec.
Ah ouais. Ah oui. Moi, je j'aimerais que ce soit la 3.
Mais oui, c'est la 3, mais je
parce
crois que c'est ça.
Tellement
en plus.
Plus romanesque.
Mais parce que ça s'explique.
Attendez, quelle est la 3 pour vous?
Bah, il a le pris langage. Un canot de sauvetage sur la tête et voilà. Il s'est mis à parler en
vous
grec.
Vous pensez que c'est ça?
Oui.
Et bien, moi, j'aurais répondu la 3 aussi parce que c'est quelque part quelque chose de logique et les autres paraissent inventés par un homme fou qui prépare des quiz.
Oui.
Eh bien, non. La réponse c'était la 2.
Mais non.
En effet, il a pu observer des manchots pratiquant des actes homosexuels, mais aussi pédophiles, nécrophiles et des viols. Il fut si choqué qu'il décida de tout rédiger en grec, et ça a marché, car ses travaux n'ont été traduits et rendus publics que 50 ans plus tard. Ah, ça vous fait
alors,
rêver,
cette émission, Anne, c'est formidable.
Anne, vous enquêterez là... sur les manchots. Apparemment, c'est des sacrés salopios.
Je suis hyper étonnée.
Et Baroc, Ploutos, dieu de l'abondance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est une femme. Vrai ou faux?
Non, j'irai non.
Mais vous êtes touché par la grâce aujourd'hui. Faux, il est le fils de Déméter, la déesse de l'agriculture. Par contre, un autre dieu est un homme alors qu'on pense souvent que c'est une femme.
Quand un dieu est un homme alors qu'on pense que c'est une
Morphée.
Femme.
Ah, Morphée.
Oui, voilà, Morphée. Mais du coup,
dans les bras de Morphée.
Mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai
jamais
vu Eva aussi
compétitive. Non, mais c'était facile, vous dites...
Montrez-moi vos fiches. Est-ce que vous n'avez pas les résultats du quiz sur une feuille?
Ploutos,
le dieu de l'abandon,
en grec, qui veut dire le riche, qui a donc le dieu des enfers, Pluton. Pourquoi Pluton l'appelle le riche? Pourquoi il est riche?
Ah, aucune idée. Pluton.
Parce qu'en fait, il y a toujours des morts, etc. Donc ça enrichit son capital en permanence. C'est le dieu, c'est le plus riche des dieux, Ploutos.
Il fallait penser.
À Pluton. Voilà.
C'était le petit plus de Christophe Onodibio.
Non, mais c'est marrant tout ça. Ouais. C'est amusant. On voit les choses autrement. Voilà, on pense à la mort, mais différemment.
Tout à fait.
Voilà.
Christophe Onodibio, justement. On connaît tous le logo de Nike. Mm-hmm. Eh bien, Nike est une déesse grecque, celle de la victoire. Vrai ou faux? C'est un peu la question la plus dure, je pense.
Bah, c'est très compliqué, ça.
Oui, la réponse est vraie. C'était trop facile pour Christophe Onodibio. D'ailleurs, le logo est censé représenter une aile de Nike.
Exactement.
Il a été créé par une étudiante. Elle l'a vendu en 1971 pour 35 $. 10 ans plus tard, pour se rattraper, Nike lui a offert une bague en diamant avec la forme du logo.
Ouais. Et Athéna Nike, qui est le nom donc Athéna victorieuse en fait, était enfermée dans son les Athéniens l'ont gardée dans son temple parce que pour que la victoire ne quitte jamais la ville. Voilà, Athéna Nike. Donc en fait, oui, c'est assez contre-intuitif parce que j'entendais l'autre jour un joueur de tennis qui disait je me suis fait. Hein. Et en fait, il avait perdu.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Et oui, l'équipée sauvage, c'est tous les jours de 16h à 18h 18h sur Europe 1. Rendez-vous demain, toujours en compagnie de Mathieu Noël, Eva Rock et tous les invités de la semaine passée, l'écrivain Maxime Chattam, le directeur adjoint de la rédaction du Point, Christophe Onodibio, Patrice Lecomte aussi, Olivia Ruiz ou encore Stéphane Guillon, sans oublier les sujets passionnants de nos journalistes compétiteurs. À suivre le grand journal du soir sur Europe 1. Ce soir, pas de Wendy Bouchard, ce sera François Claus que l'on va retrouver. Alors à tout de suite, excellente fin de journée avec nous sur Europe 1.